Vous écoutez
RMC.
RMC.
On doit progresser, on doit tous monter d'un cran, monter le cursus quand tu vas bien travailler l'entraînement et monter le petit cursus pour être le meilleur possible.
Ça a été compliqué pour Strasbourg, même au niveau mental, parce qu'on a été en rouleau tout le match. Quoi.
Ils le payent deux fois coup sur coup.
Rouleau.
C'est malheureux de leur part, mais je pense que c'est la chance du dernier, ils n'ont pas trop de réussite.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'After en direct sur RMC 7 jours sur 7, jusqu'à minuit et 24 heures sur 24. En podcast. Tiens, pour une fois, je vais vous donner le programme avant le casting. Kylian Mbappé au programme ce soir. Il était en conférence de presse aujourd'hui. Il n'a pas voulu dire qu'il allait au Real. Il n'a même pas voulu dire qu'il quittait le PSG. Mbappé doit-il clarifier sa situation? On l'écoutera et on en débattra avec vous au 32-16. Dans une demi-heure, l'équipe de France en tant que telle au programme à la veille de France-Allemagne. Marcus Thuram sera titulaire demain. Je vous donnerai d'ailleurs la compo probable. Doit-il être le numéro 9 des Bleus? Numéro 9 pendant l'Euro. Là aussi, on en débat avec vous tous au 32-16. En deuxième heure, on parle de celle qu'on aime critiquer, mais qui nous manque tellement quand elle n'est pas là. La Ligue 1. Dans une semaine, c'est le début du sprint final. Qui pour le top 4? Qui pour les petites coupes d'Europe? Qui en Ligue 2? Les projections de l'After avec vous tous au 32-16. Et puis à 23h30, Julien Laurent sera là pour ce très sexy Angleterre-Brésil demain avant le meilleur de l'actu du jour. Voilà, ce soir, j'ai commencé par le programme. Maintenant, j'accueille l'équipe du soir. Lionel est là. Salut mon Lionel.
Salut Thibaut, salut à tous.
Et Walid Acharchour également. Salut Walid.
Salut Thibaut, salut Lionel.
Ça va Walid,
salut
tu transpires, qu'est-ce qui t'arrive?
Moi, je sors de Bauer là du Red Star et le périph a été bloqué donc
c'est le périph bloqué, c'est bizarre ça.
Le périph
c'est
bloqué.
C'est bizarre.
Je trouve que 22h03, c'est, je m'en sors bien à un moment donné,
en
j'ai
scooter?
Eu en voiture.
Oh.
À un moment donné, j'ai eu très très peur.
Ouais. Très très peur de.
Ah, très très peur de.
De rater l'émission quoi. D'arriver
pas
à minuit 5.
Pas de
minuit
5. Mais d'avoir un retard un peu plus important.
Non, non, mais tu es pile à l'heure, Walid. T'as vu du bon football?
Oui, par moment.
T'as eu combien?
Un partout,
c'est ça?
Résultat un peu décevant, mais bon.
Et oui, j'avais une question pour
Nancy,
toi.
Nancy, pas facile à jouer.
Nancy, Nancy, quatrième de national qui est pas
Red
facile.
Red Star, Nancy.
Ouais.
Ouais, une question, je vais te demander, ça fait très longtemps. C'est où le Red Star?
C'est à Bauer.
Ah, ok, merci. Sur tous les sujets dont on vient de parler, le 32-16, bien évidemment, c'est Adri qui est là au standard ce soir. N'hésitez pas à vous appeler.
Il y a un McDo là-bas.
Et vous non. êtes en direct. Ouais. Ils viennent de parler dans Génération After du naming
ah ouais
de la Ligue 1 et ça fait réagir.
Ça donne envie.
N'hésitez pas à écouter ça en podcast. Au 32-16 donc, le direct studio si vous préférez écrire. Et puis bien sûr, je vous lis sur le chat de la chaîne YouTube @after-foot. N'hésitez pas à venir commenter votre soirée. Vous pouvez venir nous voir. Et on est toujours en direct jusqu'à minuit. Et je vous annonce ce soir que c'est le retour du coffre RMC et on vous offre jusqu'à 50 000 euros. Dès que vous entendez ça... Voilà. Eh bien, déjà, baissez le son. Et ensuite, vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre par SMS au 732-16. Et vendredi prochain... vendredi 29 mars d'ailleurs, oui c'est vendredi prochain, l'un ou l'une d'entre vous sera avec nous dans l'émission pour ouvrir le coffre. Donc sachez que si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 2 500 euros, mais vous pouvez aussi remettre en jeu cette somme en ouvrant le coffre RMC. Et si vous osez l'ouvrir, soit vous gagnez une semaine de vacances dans un camping Tikayan en France pour 6 personnes, soit la somme de 50 000 euros. Donc coffre par SMS au 732-16. Restez bien à l'écoute, hein. L'alerte peut tomber à tout moment dans l'émission, pendant les pubs, donc n'hésitez pas à rester. Et tiens, vous donnez également quelques matchs en ce moment. Il y a France-Allemagne demain, on en parlera tout à l'heure. Juste 2-3 sélections, notamment on a un œil sur les Pays-Bas, nos futurs adversaires en phase de poule de l'Euro. Les Pays-Bas qui mènent 1-0 face à l'Écosse après une heure de jeu. Vous donnez tiens également l'Espagne qui affronte la Colombie, 33 minutes de jeu et pour l'instant 0-0.
Il y a le premier match de l'ère Petkovic avec l'Algérie contre
la Bolivie. Ah ouais, ça vient de démarrer 0-0.
Ouais.
Absolument.
Ouais.
17h30 aujourd'hui, le monde du foot avait les yeux braqués sur le Groupama Stadium. Évidemment, pas pour admirer la qualité de passe de Jack O'Brien, mais pour écouter Kylian Mbappé à la veille de France-Allemagne. C'est en capitaine des Bleus qu'il s'est présenté face à la presse. Première prise de parole depuis les révélations de son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison. Évidemment, beaucoup de questions sur son avenir et très peu de réponses sur son avenir.
J'ai rien annoncé parce que j'avais rien à annoncer. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme et je parlerai. Et donc, tant que je l'ai pas fait, c'est que j'ai rien à annoncer.
Évidemment, vous connaissez les journalistes. On s'est pas arrêté là-dessus. Il a été relancé plusieurs fois, notamment une fois par Loïc Tanzi qui lui a demandé si, oui ou non, il pouvait confirmer qu'il quittait le Paris Saint-Germain.
Vous savez mieux que moi, non? Donc, demandez à celui qui vous l'a annoncé. Il sait, lui, non? Voilà, demande-lui. Il a toujours raison, lui. Le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai et je pense que je me suis jamais caché, j'ai jamais eu peur. C'est juste que j'ai rien à annoncer, en fait. Désolé de décevoir, mais j'ai rien de croustillant à vous annoncer.
Kylian Mbappé aujourd'hui au micro d'Arthur Perreux, Fabrice Hawkins en direct de Lyon. Avant de lancer le débat, d'ailleurs, on vous attend au 32-16, Lionel, Walid, juste. Comment vous l'avez trouvé, Mbappé, sur la forme? Je sais que j'avais parlé avec Nico Villas, d'ailleurs, on n'était pas d'accord. Il l'a trouvé un peu déstabilisé. Moi, j'ai pas trop trouvé. Comment vous l'avez trouvé?
Comme d'habitude, c'est un exercice qu'il maîtrise, hein, qu'il affectionne même. On en parlera après dans le débat, mais non, je n'ai pas senti déstabilisé plus que ça, non.
Non, j'ai trouvé très décontracté, souriant, il maîtrise la situation. Sa situation est claire et on va en parler tout à l'heure.
J'avais senti un peu plus tendu, je crois, sur l'une des conférences de presse. Il me semble peut-être que c'était avant Gibraltar l'année dernière, quand il y a eu la lettre.
Ouais, mais on a pas arrêté. Bon, là oui, aussi, oui. On était tout le temps sur ses épaules en train de lui poser toujours la même question. T'es en équipe de France. Ouais. C'est là que je crois qu'il avait dit, on est en équipe de France, posez-moi des questions.
J'avais trouvé beaucoup plus tendu à ce moment-là.
Bon, et le fond, à présent? Est-ce que Mbappé doit clarifier sa situation? Donc on attendait impatiemment aujourd'hui, il ne l'a pas fait.
Pour moi, ce n'est pas la bonne question. Pourquoi ce serait à lui de clarifier sa situation? On dit que depuis des lustres, j'entends Mbappé est au-dessus de l'institution. Mbappé, il y en a marre, il n'y a personne au-dessus de l'institution. Eh bien, demandons à l'institution.
C'est le premier concerné quand même.
Non. Le premier concerné, c'est le PSG.
Bah non, là on parle du joueur lui-même, de son propre avenir.
Vous voulez savoir, lui, il a clarifié sa situation avec l'institution. Il a vu Nasser, il a dit ce qu'il voulait faire. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à chaque fois, on dit Mbappé, dis-nous Mbappé. Pourquoi on ne demande pas à l'institution? À chaque fois, on est en train de dire, mais Mbappé, il faut qu'il nous dise ça, il se prend pour qui? Il n'est pas au-dessus de l'institution. Il est allé voir son institution. Il a clarifié sa situation actuelle avec son institution. Demandons à l'institution.
On lui a demandé, bien évidemment, à Luis Enrique, hein, plusieurs fois.
Non. À Nasser. C'est... Il a clarifié avec Nasser. Il l'a dit. Pour moi, c'était clair, net et précis. Pour moi, les deux, ils ont un accord. Ils se sont dit, écoute, on en parlera en temps voulu. Pour l'instant, on ne parle pas de la situation.
Je ne sais pas s'il y a un accord entre les deux.
Bien évidemment.
Je ne sais pas s'il y a un accord entre les deux. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même l'impression que quoi qu'il arrive, c'est Mbappé qui a la main et qui a la montre, la boussole de sa communication. Je ne vois pas, comme Lionel vient de le dire, Nasser El Khelaifi, déjà que les relations, elles sont très, très fraîches depuis un moment, venir et annoncer sur les réseaux sociaux ou dans une interview. Non,
mais et pourquoi pas Mbappé, on dit que les joueurs, ils ont la main sur le club, sur l'institution.
Mbappé le prendrait très, très mal. On voit très bien que... Allons là-dessus. Moi, je suis persuadé que Mbappé aime ça. On le voit sur la réponse qu'il a à Loïc Tanzi, notre collègue. Il en joue. C'est son. Je sais pas s'il y a il y a sûrement un documentaire qui est prévu, qui est préparé, qui est ficelé.
Ça, c'est sûr. Il est suivi par Netflix.
Walid, il y a pas de souci. Qu'il s'amuse avec les journalistes par rapport à sa situation sur laquelle, justement, mais sur le fond du problème, situation. Il ne le veut pas. Il cultive parce qu'on le met là. Déjà, pour moi, c'est une erreur. Aujourd'hui, peut-être déjà.
Après, il est capitaine de l'équipe de France quand même à un moment donné.
Est-ce qu'elle n'est pas là l'erreur de le mettre capitaine justement à cette période-là?
Ça, on a fait les débats.
Parce que étant capitaine, il est obligé d'aller à la conf. Donc c'est pas notre débat, c'est deux débats qui sont complètement liés.
Clarifie sa situation au grand public, Lionel. S'il dit aujourd'hui, ok, je dis quitte le Paris Saint-Germain, pas forcément je vais au Real parce que peut-être qu'il est pas encore d'accord avec le Real, mais est-ce que par rapport, je sais pas, aux supporters du Paris Saint-Germain, ses adversaires,
qui a annoncé son arrivée au PSG? Qui a annoncé avec
2017,
qui il était?
Je me souviens plus, mais
lui et Nasser. Les deux sont arrivés avec le maillot, il a signé. C'est les deux.
Alors, c'est ce qu'ils vont faire pour son départ.
Et ben voilà, on verra, peut-être. Ah oui, bah. Peut-être, on verra.
Il y a aucun intérêt pour toi à le faire avant, en fait.
Non. Je vois pas pour. C'est pas qu'il y a aucun intérêt. Il pourrait. Il y a plein d'intérêts. Mais pour moi, c'est. On met le truc sur Mbappé doit clarifier. Mbappé doit faire ça. Mbappé doit faire ça. Pourquoi pas Nasser? Pourquoi pas l'institution?
Et parce que c'est, moi, pas, je c'est comprends. Pas Nasser aujourd'hui.
Mais c'est bien lui quand il recrute un joueur, c'est bien lui qui le dit.
Oui, mais là, il a plus la main. Là, la main, c'est Mbappé qui va partir au Real Madrid. C'est pas Nasser El Khelaïfi.
Moi, j'ai l'impression qu'il a repris la main.
Et non, mais
ils l'ont même évincé de l'équipe.
Lionel, tu sais très bien.
Ils l'ont évincé de l'équipe en juillet, il était même plus. Donc ils ont repris la main.
Tu sais très bien la portée sur les réseaux sociaux d'une annonce comme ça.
Mais rien à foutre des réseaux sociaux. C'est la vie d'Mbappé, c'est son avenir. C'est l'avenir du PSG. Rien à foutre des réseaux sociaux.
Mais si tu penses que Mbappé, ça n'a pas une importance, tu te mets le doigt dans l'œil. Si tu penses que Mbappé.
Mais bien sûr que ça n'a pas d'importance. Il est bien plus influent que les réseaux sociaux.
Ah d'accord, ok.
Mbappé n'est pas plus influent que les réseaux sociaux.
Tu penses que Mbappé, toute la communication qui sont en train de préparer sur le bon moment, au bon endroit, comment on va le faire, etc. Pour toi, ça n'a aucune importance.
Dans je te dis qu'il est plus important que les réseaux sociaux. Aujourd'hui.
Ah oui, heureusement, c'est un joueur de foot, oui. Mais,
tu viens de me dire non à l'instant.
Non, mais ça y participe. C'est un joueur NBA, c'est un joueur qui aime encore une fois tout ça.
Non, si
tu penses que.
C'est pas les réseaux sociaux, c'est le PSG, l'institution, les supporters. C'est pas les réseaux sociaux. Là, on part du monde entier.
Non, mais si tu penses que c'est Nasser El Khelaïfi qui va aller dire dans un petit interview à RMC. Ou aux Parisiens, cette bombe.
C'est parce que c'est vous qui voulez pas Nasser. Vous voulez Mbappé.
Qu'est-ce que vous voulez exactement?
Qu'est-ce que vous voulez? Que Mbappé clarifie sa situation ou que connaître exactement ce qui se dit dans les coulisses et tout ça?
C'est jamais Nasser qui va le faire et c'est pas à lui de le faire.
Moi je veux dire, ni Mbappé ni Nasser, Lionel, je m'en fiche un petit peu, je vais pas te mentir, mais je veux juste savoir sur le moment, en fait, le timing de cette annonce.
Le timing.
Ce sera quand le bon moment? Est-ce qu'il y a un bon moment? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi il ne le dit pas aujourd'hui?
Aujourd'hui, je suis pas d'accord.
Mais pourquoi justement?
Il doit pas le faire dans un cadre de l'équipe de France. Ça n'a aucun rapport aujourd'hui.
Mais il doit faire le faire quand alors?
Bah, il doit le faire, mais je sais pas moi. Ce débat-là,
Pourquoi il le fait pas depuis trois mois.
Parce qu'il a eu un accord avec Nasser quand ils sont vus. Pour moi, l'accord, le fond, c'est vraiment mettre son institution au courant. Nasser a demandé à être au courant de ce qu'il voulait faire.
C'était il y a un mois.
Bah voilà. Et ils se sont dit quelque chose. Le problème, il est que vous voulez savoir que vous voulez que Mbappé vous dise quelque chose.
C'est qui mais, vous?
Bah là, c'est ta demande, toi, le journaliste, non, les journalistes.
Je pose la question. Je dis,
si tu poses la question, c'est que tu veux savoir.
Tu
poses une question, mais tu veux pas savoir.
La question, c'est.
Tu réponds pas à ta question.
Bah, parce que tu l'as
comme
pas
ça,
comprise.
Tu sauras pas.
Tu l'as pas comprise.
Bah, si.
Ma question, c'est.
Doit-il clarifier sa situation?
Oui, ah oui, voilà.
Et ben, bah, il l'a.
Non. Ça veut pas dire que la réponse est oui. Si vous me dites non et que vous avez les bons arguments, je dis ok, ça se trouve, on attend 6 mois, il y a pas de souci.
Arrête un peu. Le truc, c'est que vous voulez la déclaration de Mbappé. Pour moi, quand un président, il y a personne. Vous dites tout et son contraire. Vous dites qu'il est haut, il ne doit pas être au-dessus de l'institution, mais par contre, il doit clarifier sa propre situation par rapport à l'institution. Je ne comprends pas.
En fait,
je ne comprends pas
moi,
personnellement.
Ce que je veux savoir,
c'est l'institution qui doit clarifier ce truc s'ils ont envie de le faire.
Moi, ce que je veux savoir, les gars, c'est cette question, ce timing. Est-ce que s'il ne le fait pas, comme il ne l'a pas fait aujourd'hui, est-ce que ça peut avoir
aujourd'hui,
des conséquences?
Aujourd'hui, ça n'a rien.
Est-ce que ça peut avoir des conséquences pour lui, pour son club? Est-ce
aujourd'hui, c'est même déplacé. Si on n'a pas compris, Thibaut, si on n'a pas compris qu'aujourd'hui, c'est l'équipe de France, on doit parler de l'équipe de France, eh ben, bien sûr, il va s'en amuser encore plus qu'avant. Et puis, ça sera de pire en pire. En équipe de France, on pose des questions pour l'équipe de France. On n'est pas là pour régler des comptes personnels ou les comptes avec le PSG.
Bah, ça,
on
Lionel. Parle, mais, non, mais c'est un joli discours. Mais Mbappé, c'est notre star numéro un du foot français, évidemment, que dès qu'il s'exprime, on a plein de questions à lui poser qui le concernent lui aussi, évidemment. C'est pas un joueur lambda, on parle de Kylian Mbappé.
Alors ne vous étonnez pas s'il est au-dessus des institutions.
Mais non, mais ça n'a rien à voir.
Parce qu'on est en équipe de France, on veut savoir son truc personnel. Il est au PSG, on veut savoir son truc personnel. Le met tout le temps au-dessus des institutions. Parlons de l'équipe de France et parlons du PSG.
Depuis tout à l'heure, tu utilises le vous. Là, on est sur un débat entre toi et moi. Moi, l'idée, moi.
Je peux te dire toi dans les yeux.
Moi, j'ai aucun
souci.
Vous voyez-vous, il y a une.
Mais moi, j'ai aucun intérêt. Encore une fois, que Mbappé le dise aujourd'hui ou dans 3 mois. Sincèrement, j'en ai rien à fiche. Moi, l'idée de la
c'est
question
les conséquences
du soir.
De ça.
Non, mais la question, encore une fois, c'est que tout dépend
si il a vraiment dit à ses coéquipiers et à son président, moi c'est ce qui m'importe.
Ça c'est oui.
Ça c'est mon avis.
Sûr,
ça c'est mon avis. Voilà. Maintenant, okay. Encore une fois, est-ce qu'il doit clarifier la situation? Je n'en sais rien. Et franchement, ouais. Sincèrement, okay. Plus ça avance, plus ça me saoule et plus j'ai l'impression qu'il joue avec nous. Là, sa conférence de presse aujourd'hui où il manie très très bien le verbe comme d'habitude. T'as l'impression qu'il aime que ça continue à parler et il décidera quand il le voudra. Il nous prend un peu même pour des bêtes quand il dit que en gros.
Mais on l'entretient ça, Walid. Hein, on l'entretient ça parce qu'on lui demande justement à chaque fois.
Après ça c'est le boulot des journalistes. C'est le boulot des journalistes.
Bah oui, mais c'est de notre faute à nous. N'en parlons pas. Nous, ce D'accord. qu'on veut aujourd'hui, enfin moi je sais pas, alors, ce qu'on veut aujourd'hui, moi personnellement, je suis pas plus supporter du PSG que de l'OM, que tout ça. Moi ce que je veux aujourd'hui, à 300%, que Mbappé parte à la fin de l'année ou quoi, je m'en tape. Ce que je veux, c'est qu'il aide le PSG et l'équipe de France à s'en sortir pendant le championnat d'Europe et à la Coupe d'Europe et qu'il gagne la Coupe d'Europe. Voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui.
32-16
et demain, on verra son avenir.
Supporter parisien, notamment sur ce sujet. Est-ce que vous voulez une clarification? Est-ce que ça peut poser problème s'il ne le fait pas? N'hésitez pas à vous participer au débat dans l'after avec Walid Acherchour et Lionel Charbonnier. Tout de suite sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est 22h21, nous sommes vendredi le 22 mars. Très bon début de week-end, merci de commencer sur RMC. Lionel Charbonnier, Walid Acherchour, on est en direct jusqu'à minuit. L'équipe de France au programme ce soir, France-Allemagne. Demain, je vous donne dans quelques minutes la compo probable. On débattra du numéro 9, Thuram, Marcus Thuram, qui sera titulaire en pointe demain. Doit-il être le numéro 9 des Bleus? Mais d'abord, concluons sur Kylian Mbappé, qu'on a écouté, qui était en conférence de presse aujourd'hui. Doit-il clarifier sa situation? Est-ce que vous comprenez qu'il ne le fasse pas? Pas mal d'appels au 32-16 et on a Laurent qui est avec nous. Salut Laurent, bienvenue dans l'after.
Bonjour messieurs, ou plutôt bonsoir messieurs.
Bonsoir, bonsoir Laurent, sois le bienvenu. Laurent.
Ben, merci beaucoup de votre accueil. Oui, alors j'avais si je peux avoir une petite minute pour deux points. En fait, pour Mbappé, je pense qu'il y a d'abord l'institution Real, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé il y a deux ans avec Mbappé et le Real. Je viens, puis finalement je ne viens pas. Je pense que le Real n'a pas oublié tout ça. Ils ont envoyé une lettre donc il y a quelques jours, je crois, ou très récemment, comme quoi aucun de leurs joueurs serait libéré, puisque ce n'était pas une date FIFA. Mmh. Je les vois très mal par rapport à ce qui s'est passé et par rapport au veto qu'ils mettent en place de libérer Mbappé. Donc ça déjà, à ce niveau-là, je vois pas trop, sinon c'est la fin de l'institution Real. Et
Mbappé, mais ça c'est un autre débat ça, non? Là tu parles des JO, toi?
Non, je pense que ça fait partie du débat, puisqu'on est en train de parler, de savoir si
de l'annonce,
le Real du va moment libérer Mbappé pour faire les JO, non?
Non, là en fait on parlait de l'annonce, plutôt de son transfert.
Alors oui, on parlait plutôt de l'annonce de son transfert, parce que ce que je disais tout à l'heure, il a pas voulu dire
sa situation.
Quitter le Paris Saint-Germain, il a pas voulu dire bien évidemment non plus où il allait la saison prochaine. Après, ceci dit, il a aussi parlé des JO, et d'ailleurs il a répété, pour le coup c'est peut-être la seule, voilà, qu'il lâchait pas l'affaire, qu'il est toujours en vue, qu'il espérait toujours
et personne lui a dit oui, personne lui a dit non, et que là en gros, vu qu'il est encore au Paris Saint-Germain, pour lui, celui qui doit lui dire oui ou non, c'est Nasser El Khelaifi.
Voilà, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui.
D'accord, Laurent. Alors dans ce cas-là je suis désolé parce que j'avais pas bien compris tout ça.
C'est pas grave Laurent.
Ouais, non, en plus t'avais un deuxième point, donc peut-être que ça...
Ouais,
ça...
le deuxième point, c'est toujours par rapport à ce que je voulais dire sur Mbappé et les JO. Je pense que Mbappé va à une saison quand même relativement épuisante, hein, puisque on peut penser qu'elle n'est pas finie, je l'espère pour le PSG. Un bon tirage en Ligue des Champions, la Coupe de France, etc. Donc il va terminer la saison, comme tous les joueurs parisiens, quand même assez fatigué, ce qui est normal, avec plus de 60 matchs à son crédit ou à son débit, comme on veut. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va enchaîner. Il enchaînerait donc sur l'Euro et donc sur les Jeux Olympiques. Et je pense que par rapport à tout ça, je ne vois absolument pas, et au risque de blessure qui pourrait évidemment, parce que le joueur a besoin de se reposer à un moment ou à un autre, je le vois mal arriver mi-août au Real et enchaîner la saison. Donc ouais. Il faudra qu'il ait au moins 15 jours, 3 semaines de vacances, plus une préparation. Donc moi, en fait, j'étais parti un peu sur ce débat-là, je suis désolé.
Ah bah non, mais écoute, c'est ton avis.
Je vois très très mal le Real, en fait, pour ces deux raisons. D'abord, une histoire un peu d'institution et par rapport à l'aide que le Real a envoyé. Et ensuite, par rapport à l'intégrité physique du joueur, je vois très très mal le Real dire oui. Et puis, il y a cette histoire de Macron que j'ai entendu chez Rotten sans flamme qui pourrait intervenir. Donc déjà, je vois pas Macron intervenir auprès de Florentino Pérez. Je vois plutôt Macron intervenir auprès des dirigeants espagnols qui eux-mêmes, enfin du président espagnol ou du Premier ministre, j'avoue que je ne suis pas très au fait de la politique espagnole, donc pour intervenir auprès...
Ce que tu veux dire, c'est que pour toi, Laurent, il y a très peu de chances qu'il fasse les JO, voilà. Même si lui l'espère encore un petit peu.
Je ne vois vraiment pas comment ça pourrait se faire.
Ça sent mal embarqué, effectivement. Bon, Laurent, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, ça a été un plaisir.
Et merci,
à très vite,
merci,
j'espère.
Merci, Laurent.
Bonsoir, Laurent. Salut, Laurent, bonne soirée. À bientôt. Axel est là également, 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut, Axel.
Bonsoir tout le monde.
Bon, bonsoir, Axel. On parle JO ou on parle de l'avenir personnel de Kylian Mbappé?
Non, moi je vais essayer de revenir sur Kylian Mbappé.
Ah mais non, attends, je voulais parler de JO maintenant.
Non, c'est bon, je pense que Laurent a fait le tour. C'est très bien.
Vas-y.
Par rapport à ça, ben j'écoute depuis tout à l'heure, j'écoute depuis Rotten sans flamme, et là j'entends maintenant ça, il s'amuse de ça et on l'entretient. Mais c'est évident et merci de le dire parce qu'en fait lui, qu'il est en train de faire, au-delà de son départ, pas départ, c'est un débat sans fin jusqu'à que ça arrive. Mais c'est la vraie question, c'est ben lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vendre ses marques, il pose des brevets sur ses punchlines, sur son nom, sur ses surnoms, sur ses acronymes. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait que parler de lui. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, parce que c'est un sujet central du foot français, du foot mondial.
Non, mais arrêtez de lui poser ces questions-là sur son avenir. Et puis on s'en fout. À la limite, on s'en fout.
Parce que lui, ça l'a.
On verra. Bah voilà. Donc on arrête de lui poser. Basta.
Évidemment, on le harcèle. Bon, là, évidemment, c'était un énorme hors sujet par rapport à France-Allemagne. Mais ils en parlaient tout à l'heure qu'ils auraient dû orienter la conférence de presse. Et j'étais assez d'accord avec eux.
Normalement, ça se fait. Normalement, ça se fait. C'est-à-dire que l'attaché de presse, lui, dit, voilà, les questions, c'est, elles sont guidées, elles sont orientées comme ça.
Oui, mais après,
et là, ça n'a pas été fait.
Ben non, mais que ce soit, que ce soit fait ou pas fait, les journalistes, c'est le principe de base. Et heureusement qu'ils ont le droit de poser les questions qu'ils veulent. Hein. Sinon,
au bout d'un moment, quand on voit que le débat, là, on parle. Est-ce qu'on a parlé plus de l'équipe de France ou plus de Kylian Mbappé?
Ah bah évidemment aujourd'hui, mais ça tout le monde le savait. Mbappé le premier en fait, et l'équipe de France elle-même, l'attaché de presse également. Tout le monde se doutait que la plupart des questions concerneraient son avenir.
Et ben voilà. Donc est-ce qu'il doit clarifier sa situation? Lui, c'est dans son intérêt qu'on parle de lui dans tous les sujets. Il veut
faire les JO. C'est financièrement, c'est ça que que tu veux dire, Axel? Et en gros, quoi, il fait grimper
de,
le.
En termes de
sa notoriété, son argent.
Je pense pour son ego personnel. Mmh. Il aime qu'on parle de lui, il aime parler de lui. Ça s'entend quand même. Mais ça n'enlève rien aux joueurs, à la personne.
Après, là, j'ai quand même l'impression que sur les passionnés de foot, etc., l'histoire, elle a pris quand même un coup à partir du moment où. On a bien vu que Luis Enrique, de par ses actes, a montré quand même une certaine cassure. La même chose de la part de Nasser El Khelaifi. Il y a des joueurs qui ont communiqué. Enfin, Danilo Pereira a laissé sous-entendre ça après un match contre Nantes. On a bien compris, quoi. Donc, on a bien compris son choix. Donc, moi, personnellement, moi, je me mets dans cette position et je le disais tout à l'heure. Voilà, tant qu'il a clarifié l'histoire auprès des dirigeants, auprès des joueurs, auprès du coach. Après nous, en fait, au final, bon, on aura un super post Instagram dans un mois, dans deux mois. Aujourd'hui, sincèrement, qu'est-ce que ça change? Comme je le disais à Lionel,
c'est ce que je disais à Lionel.
Et moi, je pense qu'il faut pas minimiser l'importance qu'il y a entre le Real Madrid, Kylian Mbappé, les sponsors sur une telle annonce. Hein, c'est comme Lewis Hamilton à Ferrari. C'est ce type de, on est sur ce type de sportif là. Ça se fait pas comme ça, ça se fait pas. Donc voilà, on va attendre. Et puis moi, de toute façon, voilà, moi, sincèrement, je suis passé à autre chose sur ce choix Real Madrid Paris Saint-Germain, parce que voilà, le choix, en tout cas tous les signaux nous annoncent qu'il va au Real Madrid.
Oui. Puis... Bah oui, mais on est obligé d'attendre puisqu'il s'est mis dans une position, je crois que c'est toi qui le disais en plus, qu'il était maintenant au-dessus des institutions. On est obligé d'attendre, maintenant c'est lui qui décide.
Oui, mais
c'est pour ça qu'il clarifie pas.
Je critique parfois Mbappé, mais là sur ce côté, s'il a dit très très tôt à Nasser et à
et à son entraîneur et à son vestiaire qu'il partait. Bon voilà, il a fait son job. Les médias ou nous, on n'est pas obligé de savoir 3-4 mois avant. Moi ce qui m'aurait gêné, c'est que il annonce là au PSG à la dernière minute ou que il fasse ralentir le truc, notamment à l'intérieur de du football. Là, c'est plutôt sur le contexte
comme il
extérieur.
L'a fait l'année d'avant,
d'autant plus que si jamais il part, je sais pas ce qui s'est dit, je sais pas entre eux, mais s'il a clarifié sa situation,
oui, ça, on est sûr de ça,
qui a été clarifié, oui. Et tu ne remplaces pas Mbappé par un autre Mbappé, il n'existe pas. Donc tu vas, ne serait-ce que pour le recrutement qui se fait dès maintenant et qui a déjà commencé il y a plusieurs mois, voire peut-être plus d'un an. Pour certains postes qu'il va falloir pourvoir, avec ou sans Mbappé, c'est pas la même. Donc c'est pour ça aussi que Nasser a dit maintenant Kylian, il doit nous dire, et il a rencontré l'institution, il a clarifié sa situation. Point barre. Le reste, ça, c'est juste l'institution, le PSG. Le reste, on s'en fout.
Mais sa réponse à Loïc Tanzi nous montre quand même qu'il est pas du tout dérangé par cette situation-là. Qu'il aime bien qu'on en parle. Que je crois qu'il y a même une réponse pendant la conférence de presse où mais sur un sujet totalement différent où il dit moi je m'occupe pas trop de ce. Je crois que c'était une question de Dominique Sévrac, je crois, sur la possibilité d'enchaîner JO et Euro. En gros, c'est pas compatible, ouais. Et les observateurs le disent. Ouais. Et il répond en disant moi, ce que les observateurs pensent, finalement. Donc globalement, tu sens que pendant toute la conférence de presse,
il joue, il aime ça.
Donc
et plus on lui posera la question, plus il va en jouer.
Faut passer à autre chose.
Merci Axel d'avoir été là. En tout cas, je te souhaite un bon week-end et
bon week-end à tous. Merci.
Salut Axel, bye bye.
Salut Axel.
Il est 22h31. Je vous propose un truc. C'est qu'on rentre sur le terrain dans un instant. La compo probable des Bleus. Marcus Thuram doit-il être le numéro 9 à l'Euro de l'équipe de France? On écoutera d'ailleurs, il était hier en conférence de presse, l'attaquant de l'Inter. Et on en débat avec vous au 32-16. C'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Lionel Charbonnier et avec Walid Acherchlour. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Thibaut Giangrande.
Il est 22h33, vous écoutez RMC, première radio de France le soir. Merci, c'est grâce à vous et ça fait extrêmement plaisir. L'after en direct jusqu'à minuit avec Walid Acherchlour, avec Lionel Charbonnier, toujours en direct sur YouTube également, la chaîne vidéo de l'after. Les Bleus au programme. Tiens, un coup d'œil juste sur les matchs en cours pour vous dire que ça y est, les Pays-Bas face à l'Écosse, 4-0 désormais pour l'un de nos adversaires en phase de poule.
But de Xavi Simons, non?
Prochain Euro. Un but.
Il joue Xavi Simons ou pas, ça m'intéresse?
Alors, il a pas marqué. On est sur Reinders, Wijnaldum, Weghorst et Malen.
D'accord. Ok.
Non, et Chavis, je regarde. Non, ça non. Joue pas.
D'accord.
Ça joue pas. Gakpo, Depay. Ah si, pardon. Il a joué, il est sorti.
D'accord.
Il était titulaire. 77e, il est sorti.
Okay. Quand il y avait Alan McGregor, ils étaient meilleurs quand même, les Écossais.
Ouais.
Ils jouaient dans les buts.
Ça remonte quand même.
Non, pas tant que ça. Hein.
Ah, là, récemment, là.
Ouais.
Ah, j'ai cru que tu me parlais d'une ref très ancienne de l'Écosse.
Non. Alan, il avait 16 ans quand moi je jouais aux Rangers.
D'accord.
Très, très bon gardien. Il a fait une carrière de folie. Très, très belle carrière.
Okay.
Et il n'y a pas longtemps qu'il a arrêté.
D'accord. Ah, c'est parce qu'il a eu un bon exemple. Espagne-Colombie, c'est la mi-temps. 0-0.
Et Mon aussi avec Rino. Ah,
c'est Gattuso. Rino.
Oui.
Gennaro Gattuso.
Ouais. Il me parle plus.
Ah, t'as plus de nouvelles?
Écoute.
Ah, c'est bizarre.
Depuis que j'avais dit, putain, mais renforce ton milieu et mets un autre attaquant à côté d'Aubameyang, j'ai plus de nouvelles.
Il t'a lâché des vues, quoi.
Et Jean-Louis est arrivé, il a renforcé le milieu, il a mis un mec à côté, il a tout gagné.
On voit des messages, enfin, on voit des messages.
Non, Jean-Louis. Il me répond plus, je te jure. Ah
ouais. Bon.
Pas de tant pis, hein, c'est pas grave.
Comme on dit dans ces cas-là, on l'embrasse, il nous écoute.
Ciao, ciao, pas, je te rassure.
Et puis il y a un coup d'œil, tu suis notamment attentivement Walid, Algérie-Bolivie,
ouais,
0-0.
Sur l'écran, là, 0-0, des petites actions sympatoches de Gouiri, mais pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture du score d'Algérienne.
France-Allemagne, ce sera demain à 21h sur RMC. Compo probable pour ce match amical. Info Fabrice Hawkins. Sachez que Maignan et Konaté ne devraient pas débuter, ils seront préservés. Voilà, ils sont pas blessés.
Samba ou Areola alors, parce
Samba.
Ah d'accord, parce qu'il nous avait fait une petite
qui a dit ça,
une petite réponse bizarre sur Areola,
oui.
Vous l'avez pas entendu,
Didier,
oui.
Areola fait une très bonne saison avec West Ham, mais il avait remis un peu en cause le
je pense que ça a été surinterprété
ouais,
à mon avis.
D'accord, bah, très bien Thibaut, ouais, mais
enfin non, mais je te dis ça et trop demain il va mettre Areola et je te dirai demain. On l'avait sous-interprété peut-être.
D'accord.
Mais on part sur Samba. Koundé à droite, Pavard ou Upamecano dans l'axe, Hernandez à gauche, Zaïre-Emery, Tchouaméni, Rabiot au milieu, Dembélé, Thuram, Kylian Mbappé. Déjà un mot juste de cette compo.
Il y a plusieurs informations quand même.
Ouais.
C'est que Zaïre Emery remplace Griezmann.
Mmh.
Première. Deuxième information, c'est que Koundé prend la place de Klose.
Numériquement, tu parles.
Bien sûr. Numériquement, je parle en termes de hiérarchie, ça nous montre quand même sur un match important contre l'Allemagne deux trois informations. Donc je disais Klose qui était très bon avec l'équipe de France, notamment contre les Pays-Bas. C'est Koundé qui va jouer. Et tu m'as dit Pavard dans l'axe.
Pavard
dans l'axe, axe droit, avec Upamecano qui sera axe gauche, et devant Marcus Thuram qui est numéro 9 sur le premier match et qui, pour moi, dans mon esprit, était le gros match de ce rassemblement. Donc c'est intéressant.
Que ce sera le Chili mardi. Thuram, donc titulaire très probable demain en numéro 9, doit-il être le numéro 9 des Bleus à l'Euro, notre numéro 9. 32-16 si vous voulez participer au débat. On l'écoute hier, justement, en conférence de presse, et on en débat après.
Non, je pense pas qu'il y a de hiérarchie en tant que numéro 9. Je pense qu'il y a 3, voire 4 profils assez différents qui peuvent apporter quelque chose que l'autre ne peut pas. Et après, c'est le coach qui décidera qui mettra à la pointe de l'attaque.
Ça doit être Thuram, les gars, notre numéro 9 à l'Euro. C'est avec lui qu'on titulaire en pointe, qu'on va être champion d'Europe.
Pour moi, c'est lui qui tient la corde. Ouais. Pour moi, c'est le seul avec lequel j'ai des certitudes, mais j'ai aussi des bémols. C'est-à-dire que Marcus, pour moi, c'est un joueur qui connaît tous les postes, tous les fonds de l'attaque. Il connaît la gauche, il connaît la droite. Maintenant, il connaît l'axe. Il est en train de progresser à l'Inter avec Martinez qui lui tourne autour.
Ouais.
Et là, c'est là où je mets un bémol, c'est-à-dire que pour moi, il est en train d'apprendre son boulot de planche. On va s'en servir comme une planche. On va aller le chercher dans l'attaque. Maintenant, quelle sera l'animation?
Il fait pas que ça parce que ça intervertit aussi beaucoup. Hein. Souvent, c'est lui qui est lancé dans la profondeur.
Ouais,
et Lautaro Martinez qui essaye de récupérer les ballons. Je trouve qu'il y a une vraie
association. Non, mais l'appui en profondeur, c'est rarement Lautaro Martinez.
Non, c'est sur Thuram. Ah, quand tu parlais de
c'est
planche,
ça la planche.
Le planche, c'est je pense
que tu parlais
de pivot.
Quand tu vas chercher de pivot, tu te sers de pivot. C'est-à-dire qu'il est dos au but. Il est en train de s'améliorer parce que c'est quelque chose qu'il n'avait pas. Il allait plutôt dans la profondeur à la base et à la finition. Là, avec Lautaro Martinez, il est en train de se fabriquer un poste. Et ça, un nouveau poste pour lui, et ça, pour moi, pour l'équipe de France, ça veut dire que s'il joue, et dans la figuration et les matchs qu'il est en train de faire avec l'Inter, s'il joue, il faudrait quand même qu'il y ait un mec à côté de lui. Il sera beaucoup mieux avec. Donc ça veut dire une autre animation. Pourquoi pas Mbappé? Je sais pas. On verra. Comment ça va se passer. Mbappé, moi je vais te dire l'animation telle que je la vois en période offensive. Mbappé va être un peu le joueur libre, il va se réaxer tout près de Marcus et Rabiot va prendre le côté gauche. Et en période défensive, Mbappé et Thuram vont juste orienter les premières relances des adversaires, ils vont rester comme ça. Rabiot va prendre le côté gauche. Et c'est pas Mbappé qui prendra le côté gauche.
Au-delà de Rabiot, il y aura sûrement Théo Hernandez aussi qui aura la capacité
Plus Hernandez derrière.
Là, ce serait Lucas, demain. J'ai dit Hernandez, d'accord. Je crois, tout à l'heure, je précise.
Okay. Moi, je vois l'animation. On verra. Je me projette peut-être mal, mais je pense que ce sera.
Non, mais c'est pas bête. Mais,
il l'a déjà fait.
Oui, pour revenir sur Marcus Thuram, moi, j'enterre pas Olivier Giroud qui a toujours cette crédibilité dans ce groupe et puis même cette fiabilité. Mais Didier Deschamps, s'il met Marcus Thuram titulaire demain contre l'Allemagne, ça envoie quand même un signal très très positif. Et je trouve que c'est mérité vu la dynamique de Marcus Thuram cette saison avec l'Inter Milan. Même si c'est dans une animation très différente, comme vient de le dire Lionel. Et aussi de par ses rentrées positives avec l'équipe de France, que ce soit son match contre Gibraltar, même si ça reste contre Gibraltar. Sa rentrée contre l'Irlande où il avait marqué notamment, sa rentrée contre l'Argentine en finale,
même quand il a pas marqué, il a pesé sur les défenses.
Il est souvent positif. On a vraiment l'impression par rapport à un Kolo Muani qui a été un peu en dedans, qui a eu un déclassement du côté de l'attaquant du PSG. Marcus Thuram, il est sur une pente ascendante et il est récompensé. Et moi, je suis content de le voir sur un gros match comme ça, titulaire. Il n'avait pas été contre les Pays-Bas notamment.
Ascendante, ok, mais suffisamment ascendante pour passer devant Giroud.
Bah pour moi, ça va être un match important pour lui. Il a pas eu.
Parce que il progresse en équipe de France. J'entends ce que dit Walid. Il progresse en équipe de France.
Ouais.
Mais ça, il a pas non plus de match référence. Peut-être le dernier, mais On a les matchs référence,
ils vont arriver petit à petit,
les matchs numéro 9 à l'Euro. Non,
mais il a eu très peu de matchs à se mettre sous la dent, Marcus Thuram. Là, un match à Lyon, à la maison contre l'Allemagne, futur hôte de la compétition, c'est peut-être son plus gros match titulaire avec l'équipe de France.
Il joue gros demain, t'attends beaucoup de lui demain finalement.
Je sais pas s'il joue tout, mais en tout cas, et oui, il doit répondre à la confiance de Deschamps. Et moi, je trouve que déjà, il l'a dit dans la conférence de presse, c'est une course à 2, à 3. Et ben là, oui, il doit jouer sa carte, ma question. Mais si demain il met doublé ou ça se passe bien, et ben il rajoutera des points à sa note globale pour grappiller du temps de jeu dans cette sélection. Et je serais pas surpris, je tomberais pas de ma chaise si demain il démarre l'Euro titulaire en continuant sur cette lancée.
Ok. 22h42, faut qu'on fasse une petite pause et on continue la discussion dans un instant autour de Marcus Thuram.
En fait, il a une très bonne relation avec Mbappé en dehors du terrain surtout.
Doit-il être le numéro 9 des Bleus? N'hésitez pas, le 32-16, vous nous appelez, Adriella au standard, et vous venez ensuite en débattre dans l'after avec Lionel Charbonnier, avec Walid Acherchou. On est en direct jusqu'à minuit, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Lionel Charbonnier et Walid Acherchou, on continue de parler d'équipe de France. Et ce match contre l'Allemagne demain, Marcus Thuram doit-il être le numéro 9 des Bleus à l'Euro 32-16? N'hésitez pas à venir participer au débat. Juste avant, un petit point sur les matchs du soir, là, pas mal de matchs amicaux internationaux. Vous dire que le Chili, prochain adversaire de l'équipe de France, mardi en amical, a battu l'Albanie 3-0. Le phénomène Alexis Sanchez était là, mais n'a pas marqué. Je vous rappelle que les Pays-Bas ont battu l'Écosse 4-0. L'Espagne face à la Colombie, 55 minutes de jeu, 0-0. Et on approche de la mi-temps entre l'Algérie et la Bolivie.
Ouverture du score de l'Algérie contre la Bolivie. Sur un but de Guiri contré, et un très très beau travail de Yacine Brahimi, le revenant. Yacine Brahimi, tu te rappelles de Yacine Brahimi?
Bah évidemment. On a regardé un petit peu le football.
D'accord. Un très très gros travail à la Brahimi, centre de gravité très très bas, capacité d'élimination.
Capitaine ce soir, non?
Capitaine. Ouais. Lui qui n'était pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Je trouve, bon, je suis pas ce qu'il fait notamment dans le golf.
Un 18 trous.
Mais je suis agréablement surpris par son état physique et son côté athlétique sur cette première mi-temps.
Est-ce que quand je t'ai lancé là, comme on dit, sur ce Algérie-Bolivie, à un moment donné, tu t'es pris pour Jeannot Rességué, t'allais partir et l'ouverture du score?
Non, parce que je sais pas faire, mais ouais. En tout cas, peut-être, tu l'as ressenti comme ça?
Je me suis dit, peut-être
en tout cas,
là,
ça sortait du cœur.
Hein. Ouais, en direct, il y a une vocation. Qui... Ah oui, c'est le jingle but.
D'accord. Ok.
Allez, 22h46.
L'inspiration de la régie.
On est en direct jusqu'à minuit et revenons donc à l'équipe de France qui affronte demain soir l'Allemagne. Compo probable, titulaire très probable en numéro 9. Marcus Thuram doit-il être le numéro 9 des Bleus à l'Euro? J'aurais qu'on vienne sur son utilisation. Il fait une très bonne saison à l'Inter. 38 matchs, toutes compétitions confondues. 12 buts, 11 passes décisives. Mais à l'Inter, on le disait tout à l'heure, il joue quand même avec quelqu'un à côté. Là, on est quand même sur un 4-3-3, d'autant plus Griezmann qui n'est pas là. Donc c'est vrai que ça peut être un peu différent avec un Griezmann derrière.
C'est pour ça qu'il va falloir se réinventer.
Ouais.
Il va falloir se réinventer parce que Griezmann, il a 33 ans, il ne va pas rester non plus, il ne va pas être éternel. Giroud, pour l'instant, pour moi, et je suis complètement d'accord, c'était Thuram tout à l'heure en interview, oui. Complètement d'accord avec lui, ils sont trois pour un poste, moi j'en vois plutôt deux, et je pense qu'il y a une complémentarité, attention, pas sur le terrain, mais une complémentarité pour découper le match, c'est-à-dire oui. Un qui commence, l'autre qui finit, un qui, parce que ce sont des joueurs, je te promets, hein, ils sont usants, pour les adversaires, ils sont usants, et ne serait-ce que ces deux-là dans l'axe, c'est rare quand même de changer la charnière axiale derrière. Celui qui s'est pris Thuram en premier et qui se prend Giroud derrière ou vice-versa, je peux te dire qu'ils sont pas bien. Donc pour l'instant, pour la passation de pouvoir, il va y avoir cette complémentarité le temps que Thuram...
C'est les réflexes de 98.
Ouais. Le temps que Thuram justement se fasse. Walid a raison. Pour l'instant, c'est trop tôt, mais il va se faire petit à petit. Il va se faire.
Et puis
il y a
bien
de souci.
C'est bien de trouver des solutions, des autres solutions à Olivier Giroud. Olivier Giroud, on sait, hein, c'est 6,5, c'est 7/10. à chaque fois. On connaît son niveau. On n'a pas besoin de travailler avec Olivier Giroud. On connaît qu'il, on sait qu'il a la forme. On connaît ses qualités. Là, c'est bien aussi de récompenser un joueur qui est en grande forme cette saison. Maintenant, à lui de jouer. Hein. Il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents au poste de numéro 9 qu'on a essayé sur les dernières années.
Mais l'équipe de France, c'est pas la récompense. Quoi.
Voilà.
C'est...
Oui, voilà. Donc, ouais. donc il faudra juger. Mais moi, je suis content de voir Marcus Thuram.
Mais dans si, un 4-3-3 un peu isolé comme ça, on dit qu'il n'est pas dans les meilleures conditions quand même.
Mais il a joué à Gladbach dans différentes positions. Il a joué dans sa carrière à gauche, à droite, dans l'axe, à deux, tout seul. Par exemple, quand il rentre contre l'Argentine, à un moment donné, il est pivot. C'est lui qui fait le deuxième but avec Mbappé, avec cette belle remise. Moi, je pense que entre le football de sélection et le football de club, c'est aussi différent. Il y a des, tu peux pas retrouver ton animation que t'as en club. Bah tu dois à un moment donné t'adapter.
T'as pas les mêmes joueurs.
Tu dois à un moment donné t'adapter. Mais je pense que comme il le fait avec Lautaro Martinez, qui a des caractéristiques très différentes que de Mbappé, je pense. En tout cas, je demande à voir. Après, je te dis pas que demain ça va être R9 et R9 de l'Inter contre l'Allemagne. Mais moi, j'ai envie de voir et puis on jugera après la rencontre.
Ce qui joue beaucoup pour lui, pour moi, par rapport aux autres, c'est qu'il connaît, il peut anticiper, il connaît la situation d'un ailier droit. Dans telle situation, où est-ce qu'il va mettre la balle? Parce que lui, il l'a vécu. Donc lui, en tant que numéro 9, il est capable d'anticiper. Ça, c'est l'ailier gauche, pareil. Il connaît les difficultés. Quand son ailier va être en difficulté, est-ce qu'il va falloir qu'il décroche pour venir l'aider, tout ça? Il a une intelligence, ça fait partie, sa polyvalence, à participer à son intelligence de jeu. Et donc l'intelligence, il a une faculté d'adaptation supérieure aux autres.
Samir est là au 32-16. Salut Samir, bienvenue dans l'after.
Bonsoir monsieur.
Ça va Samir?
Salut Samir.
Ouais, ça va, et vous, comment ça se passe?
Bah écoute, ça se passe plutôt pas mal, écoute, on est content de te recevoir. Est-ce que tu penses que c'est Thuram qui doit être le numéro 9 de l'équipe de France pour aller chercher l'Euro cet été?
On peut essayer, j'ai envie de te dire, de par ses prestations en club depuis le début d'année, malgré le faux pas à Madrid, au Metropolitano, où il a manqué de voilà, ce joueur fort et classe, quoi, comme disent en Italie, qui fasse la différence. Il n'a pas été incisif comme il aurait dû l'être.
Après, il revenait de blessure, c'est vrai qu'il a raté son match.
Il y a énormément de choses à dire, mais on va pas parler de ce match. Après, moi, j'ai bien envie de l'essayer. Après, la question, c'est, lui, il a l'habitude de jouer à deux devant, avec un joueur, un 9,5 comme Lautaro. Est-ce qu'il va réussir à le faire lui tout seul, faire le travail d'un attaquant de pointe avec une pointe à trois, sachant qu'Mbappé...
C'est pas le même métier.
C'est pas le même métier. Je pense que Mbappé, faut qu'il reste à sa place. On le sait. Il bouffe la ligne, il rentre intérieur et après il fait les exploits qu'il a l'habitude de faire.
Non, il bouffe pas la ligne avec l'équipe de France.
Il est un peu rentré dans l'intérieur.
Et là, il va rentrer. Samir, il va rentrer. Mbappé, il va venir à côté de. Il va venir à côté. Il va se rapprocher de Tutu, hein, de Thuram.
Ouais, mais tu connais. Ouais, il va le faire, mais il va pas le faire beaucoup parce que ça reste. Moi, je trouve que Mbappé, ça reste un soliste. C'est pas un gars qui. Il peut combiner, mais où il est plus percutant.
Je vois pas où t'as vu Mbappé coller la ligne dans l'équipe de France.
Fait des différences sous son couloir et qu'après derrière s'il rentre intérieur c'est pour finir lui-même pas avec quelqu'un. Après ouais ça peut être intéressant à voir. Il a énormément de capacité de vitesse, de percussion, puissant, pas maladroit, mais bon il manque l'intelligence de l'attaquant tueur, c'est ça qui manque et bon faut qu'il avance sur ce point-là. Mais en tout cas ouais il a tout pour pouvoir réussir en équipe de France avec la qualité qu'il y a dans l'effectif.
Walid.
Hein, je voulais changer avec Samir, mais j'ai l'impression qu'il nous écoute pas depuis tout à l'heure. Mais non, moi je disais à Samir que au contraire, moi je trouve que Kylian Mbappé est un joueur en équipe de France qui est beaucoup plus, qui se rapproche beaucoup plus de la surface de réparation qu'un ailier pur de percussion. On l'a vu sur les derniers matchs, notamment contre l'Irlande, même contre l'Écosse. C'est un joueur qui aime bien. Et puis il l'avait expliqué en conférence de presse ou en zone mixte l'année dernière, ça avait fait polémique avec le PSG. Il aime bien s'appuyer sur un joueur, notamment le numéro 9, pour derrière en profiter dans la surface de réparation. Donc moi, je pense que Marcus Thuram, ça peut totalement coller. Et puis cette légende de Marcus Thuram, qui est meilleur à deux, on avait les mêmes questions en début de saison à l'Inter. Est-ce que à deux, il va être bon? Est-ce que comme lui qui est un ailier, mais qui peut jouer numéro 9, Mbappé qui avait dit aussi, parce que faut rappeler que Marcus Thuram n'a qu'un an de plus que Mbappé et qu'ils avaient fait l'Euro quand ils l'ont gagné, notamment Marcus Thuram était remplaçant. Et ils étaient concurrents à l'époque entre Marcus Thuram et Mbappé parce que Mbappé était surclassé. Et il disait, toi tu termineras en numéro 9, on jouera ensemble, mais tu termineras en numéro 9. Donc cette complicité-là, je pense moi qu'elle peut fonctionner sur sur le terrain.
Oui, mais est-ce que c'est pas trop tard pour faire ces tests-là? Je veux dire, il a deux matchs avec Non, et c'est l'Euro. T'as des certitudes avec Giroud.
Non, mais Thibaut,
tu peux avoir.
Non, mais quand on fait que du Giroud, que du 11 type, etc., on se dit, mais on n'essaye pas autre chose. Là, on a un mec qui pète la forme, hormis le match contre l'Atlético, où il revient de blessure, et c'est vrai qu'il a pas été bon, il a mangé la feuille à plusieurs reprises. Pourquoi pas? Pourquoi pas récompenser la dynamique? Un mec au mérite.
Non, mais là, on parle pas de récompenser une dynamique, on parle d'aller gagner l'Euro cet été, en fait. Donc, d'avoir le meilleur système offensif et le meilleur.
Donc en fait, on marche au CV en équipe de France, c'est-à-dire que sur tous les postes, on n'a pas le droit de.
Justement non, Marcus Thuram, en équipe de France. Il n'a pas encore ce match référence. Ce sera peut-être demain et on en reparlera.
Mais ça sera peut-être demain, justement. Mais si tu ne le mets pas, si tu n'essayes pas maintenant, tu ne le sauras jamais.
Non, mais attends, mais Thibaut, j'ai l'impression qu'on a.
Et comment t'adapter ton jeu, excuse-moi, Wally. Comment aussi adapter ton jeu par rapport à ce joueur-là? Parce que, on parlait d'être seul en pointe, mais admettons que demain, sans Griezmann, on dise, on va chercher Thuram en pivot. Trouver Thuram en pivot pour qu'il puisse distribuer et revenir finir et marquer le but, c'est très très rare, ces mecs-là. C'est très très rare. Si Thuram est comme ça, servir de pivot et en même temps buteur, trouve Mandé comme ça, je peux te dire, il y en a pas 50
millions. On l'a pas encore vu en équipe de France.
Pour moi, c'est pas ce style de jeu. Ouais. Donc il va falloir tout changer. C'est-à-dire qu'il faut changer par ton animation qui doit changer pour le mettre dans les meilleures conditions. Donc c'est maintenant qu'il faut
commencer à faire ça. Parce que là, tu peux faire l'Euro avec tes certitudes et faire ça après l'Euro.
Non.
Pourquoi
non.
Dommage de l'Euro. Tu as vu la dernière dynamique de l'équipe de France. On peut se la refaire si tu veux. J'ai les matchs devant moi. Contre les Pays-Bas, donc il y a Allemagne-France, Pays-Bas-France, France-Écosse, France-Gibraltar et Grèce-France. Contre l'Allemagne, c'est Colomoni qui démarre au poste de numéro 9, titulaire. Derrière, contre les Pays-Bas, c'est aussi Colomoni qui démarre numéro 9. Colomoni n'a pas été bon sur ces deux matchs-là.
Absolument.
Il perd sa place, il y a un déclassement. Ouais. Colomoni qui était annoncé très fort après la Coupe du Monde, après ses rentrées notamment et son transfert au Paris Saint-Germain. Derrière, on a quoi? On a France-Écosse. France-Écosse qui est titulaire? On a qui est titulaire? On a Olivier Giroud qui est titulaire. On essaye Olivier Giroud, ça fonctionne bien. 4-1, on le sait. Et derrière, France-Gibraltar, qui est titulaire? Lilian Thuram, j'allais dire. Marcus Thuram qui est titulaire. Bon, ça reste Gibraltar, 14-0, etc.
Ouais.
Contre la Grèce, qui est titulaire sur le dernier match? C'est qui? C'est Olivier Giroud. Là, on rentre sur une autre dynamique où il y a un match contre l'Allemagne, on reteste Marcus Thuram parce que les entrées qu'il avait fait, notamment contre l'Irlande, tu te rappelles, contre l'Irlande, Giroud était sorti très tôt à cause de sa blessure. Il rentre, il marque.
Il marque contre l'Irlande.
Donc, voilà. On sera d'accord quand même sur un truc, c'est de se dire, en fait, parce que moi je pose la question, c'est pour l'Euro, quel numéro 9 pour l'Euro?
T'auras deux numéros 9.
On peut se reparler et on pourra avoir.
Mais aujourd'hui, ce qui est utile pour l'équipe de France, c'est comme l'a dit tout à l'heure Lionel, c'est d'avoir beaucoup de joueurs avec une palette différente qui pourraient arriver en forme à l'Euro. Un Giroud qui a plus de 35 ans, est-ce qu'il peut faire un tournoi complet? Est-ce qu'il peut tout enchaîner?
C'est pour ça qu'ils vont se partager le découpage du temps de jeu.
Et un partage de minutes peut être intéressant.
Oui. Mais bien sûr. Il y aura la complémentarité parce qu'il y en a un qui va apporter une force physique et tout ça, le jeu de tête et tout, et t'en as un autre qui va apporter de la percussion.
Et Giroud jouera le Chili. Et après on se fera une opinion
sur la. Mais ma question c'est pour l'Euro et moi j'ai l'impression que vous m'emmenez à l'Euro avec Thuram en.
Non,
en
j'ai, moi je veux voir
avec Thuram et Giroud.
Ok, les gars.
Je veux voir.
Il faut
Thuram.
Tester ça.
Je veux voir Thuram demain, mais Giroud, je te dis, il a sa place, qui est crédible, il est fiable, on le sait.
Ok. Je remercie Samir d'avoir été là et oui parti. Bonne soirée à toi Samir et j'accueille Charles au 32-16. Salut Charles, bienvenue sur RMC.
Merci, salut les gars.
Bonsoir Charles. Comment tu positionnes sur le débat?
Moi, je pense que Giroud, c'est une solution qui marche bien, mais dans le sens où, pour gagner dans certains matchs, il faut quelqu'un qui se donne pour l'équipe, dans le sens où il se sacrifie. Tu dois te sacrifier pour Mbappé, que tu le veuilles ou non. Et Thuram, avec le statut qu'il commence à avoir à l'Inter, pour moi, je pense que c'est un gars, il va pouvoir bouffer la feuille de match pendant un moment sur certaines actions. Mais Giroud, je pense que lui, il comprend très bien qu'il doit laisser la place à Mbappé. Mbappé, c'est la star. C'est lui qui doit tout faire. S'il faut qu'il fasse gagner, c'est Mbappé qui prendra tout. Et je pense que sur ça, Giroud, il est un peu plus mature et il pourra laisser Mbappé faire tout ce qu'il a envie de faire. Et puis après, comme disait Lionel, sur des longs ballons comme ça, de temps en temps, un bon gars qui peut te mettre des bons ballons de tête comme ça, c'est pas mal. C'est une autre alternative.
Et pourquoi Thuram, il sacrifierait pas pour Mbappé? Je comprends pas.
Excuse-moi?
Pourquoi tu penses que Thuram, il pourrait pas sacrifier, enfin, quand on dit sacrifier, c'est-à-dire faire le sale boulot de numéro 9 pour aider Kylian Mbappé à briller et pour que l'équipe de France en sorte grandie? Pourquoi il le ferait pas, Marcus Thuram? Je comprends pas.
Parce que avec le statut qu'il commence à avoir à l'Inter, lui aussi c'est une star comme tous les autres, tu vois.
Bon, enfin, on va se calmer. Le statut qu'il a à l'Inter, c'est pas Adriano.
Non, Charles, là-dessus. En plus, je connais bien. Je peux te dire qu'il est pas du tout.
Il est pas comme ça.
Il est pas du tout, Marcus, dans cet état d'esprit. Pas du tout. Au contraire, il se sacrifierait plus pour les autres que pour lui-même. Mmh.
Joueur comme ça, il aime beaucoup, il est.
Ouais, non. Si. Après, c'est pas. J'aime pas trop ce mot sacrifier, parce qu'en fin de compte, c'est chercher de la complémentarité, c'est-à-dire le boulot que ne peut pas faire Mbappé, c'est un mec comme Giroud ou un mec comme Thuram qui va le faire plus dans la. Mais se sacrifier, j'aime pas ce mot. Sacrifier pour défendre, oui, parce que.
Un rôle de l'ombre.
Oui, ouais, plus un rôle. Complémentaire,
oui, mais travailler voilà. Pour l'équipe.
Je parle de sacrifice, par exemple, c'est sacrifier un mec à gauche pour aller Griezmann qui se sacrifie pour revenir dans le défendre dans le milieu du terrain.
Merci Charles d'avoir été là en tout cas. Bonne soirée à toi.
Merci les gars.
Salut.
Bonne soirée à vous.
Ah, salut Charles.
Merci Charles. Quand tu parles de sacrifice, Charles, ça veut dire en gros, il va pas avoir énormément d'opportunités comme un numéro 9 type. C'est-à-dire qu'on va pas jouer pour Thuram.
Mais
joue pour Mbappé.
Il est pas comme
je pense qu'il peut le faire, ça, moi.
Demain, c'est Thuram. Son jeu.
C'est Lautaro qui a les meilleurs spots.
Et puis tiens, pour conclure sur ce match, sachez qu'en Allemagne, on parle très peu de la compo pour demain. Vous savez de quoi on parle, vous avez vu?
Du maillot.
Ouais, le changement d'équipementier. Ce que vous l'avez appris hier soir, sélection jouera en Nike à partir de 2027 et pour au moins 7 ans. Après plus de 70 ans chez Adidas, l'entreprise allemande par excellence, les politiques s'en mêlent. Aujourd'hui, le ministre de l'économie en Allemagne a dit « Je ne peux à peine m'imaginer le maillot allemand sans les trois bandes ». Le ministre de la Santé parle d'une erreur. Ça, c'est en train de prendre une tournure politique de fou en Allemagne.
Comme si la FIFA passait par Nike. Même chose, même institution. Je crois qu'ils ont dû commencer en même temps, l'Allemagne et la FIFA.
Oui, mais là, c'est encore pire, parce que c'est allemand, quoi. On n'a pas de chiffre officiel, mais on parle de 100 millions d'euros par an pour Nike, pour ce pays, l'Allemagne, alors que Adidas a fait une dernière proposition à 65 millions par an.
Ah oui. Bon. À 35 d'écart, non, si je compte bien.
Ça vous choque ou pas de voir...
De par notre enfance, etc. Ouais. Oui, après, je vais bien dormir la nuit. Hein.
Ouais. Ouais, c'est cool, je suis content si tu dors bien.
Ça va nous faire bizarre après.
Après voilà.
Moi ça m'a fait bizarre aussi de voir de passer en Nike.
À l'époque, il y a une quinzaine d'années là.
L'équipe de France, on s'est habitué. Après oui, l'histoire n'est pas la même entre l'Allemagne et l'équipe de France.
Il est 23h01, France-Allemagne, ce sera demain à 21h, grande soirée autour de cette rencontre dans l'after, dès 20h et jusqu'à minuit. Walid Acherchour et Lionel Charbonnier. Dans un instant, la Ligue 1, les projections de l'after. Qui pour le top 4, l'Europe, le maintien? N'hésitez pas, supporter d'un de ces clubs concernés, le 32-16, on a bossé avec Walid et avec Lionel et on vous donne nos projections et on fait ça avec vous tout de suite sur RMC. C'est la fin.
RMC, l'after foot.
RMC.
I love your body, David. And your ass.
On réussit à égaliser 2-1.
Eux, ils vont avoir une motivation décuplée. Après, c'est à nous de se mettre à la hauteur de l'événement et de mettre toute l'investigation qui peut être nécessaire pour le match.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Thibaut Giangrande.
23h04, la deuxième heure de l'After avec Lionel Charbonnier, avec Walid Acherchour. Merci d'être là. Début de week-end. J'espère que tout va bien. D'ici une petite demi-heure, c'est Julien Laurence qui nous rejoint. Énorme match demain, Angleterre-Brésil. On en parle avec Julien tout à l'heure de ce match. On fera bien sûr avant minuit le meilleur de l'actu du jour. Et tiens, j'en profite pour vous donner quelques résultats. Pas mal de matchs internationaux. On a beaucoup parlé de France-Allemagne demain 21h. Il y a des matchs ce soir, notamment l'Espagne, qui est menée 1-0 par la Colombie. Un superbe but de Munoz. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. Les Espagnols menaient 1-0. Algérie-Bolivie, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, Walid Acherchour, entre l'Algérie et la Bolivie.
C'est la mi-temps. comme ça que...
Ouais, vas-y.
C'est la mi-temps, toujours...
Excellent, vas-y.
Il y a un truc, non quoi,
ouais, il y a un truc.
C'est la mi-temps, toujours 1-0 pour les Algériens.
Excellent.
But de Amine Gouiri.
À
la 41e, on se retrouve...
C'est Jeanne Acherchour.
Jeanne Acherchour. Comment faut faire pour rendre l'antenne quand tu...
Non, tu termines...
À vous, Cognac G. À vous, les studios.
Ouais, non, tu termines... En général, tu termines en faisant le temps et le score. Ça, tu hop, et à la fin, ils disent, voilà, l'Algérie...
1-0, Algérie... Bolivie,
ouais, ça sera plus de l'adversaire. Ouais. C'est où ce match?
C'est, je sais plus c'est où.
Ah voilà, bah tu vois.
Ouais.
Le commentateur,
ouais,
lui,
il le sait. Ouais.
Mais lui,
j'ai encore de la marge.
On la critique, on la malmène. Parfois, c'est elle qui nous rend fou. Mais une semaine sans la voir et on est perdu. La Ligue 1 est en pause. Elle reprend dans une semaine pile avec un derby décisif entre Lille et Lens. Il reste 8 journées et ce soir, l'After fait ses prédictions. À qui le top 4 et la Ligue des Champions? À qui les petites coupes d'Europe? À qui le maintien? Analyse des dynamiques, des calendriers avec vous au 32-16. Voilà, je vous l'annonce dans quelques minutes. Je vais vous annoncer le top 4 de la fin de saison en Ligue 1. Donc,
t'as voilà. Une vision?
Le tien.
Le,
parce que moi j'essaie
non,
de le
faire. Le top.
Le tien
4.
À toi.
Non, le top 4. Voilà, ce sera le.
La vérité.
La oui. Vérité, je vous annonce
moi,
le top 4.
Parce que moi je l'ai pas.
Et ben justement, bon, mettons Paris de côté évidemment. On peut se dire qu'entre du deuxième au dixième.
Faut aller jusque là.
Ah ouais.
Moi j'ai tout regardé.
Ah ouais.
D'accord. Et je vous donnerai dans un instant. Lionel.
Donc t'as fait la descente aussi.
Bien sûr.
Obligé.
Le ton top 4. Au vu des voilà des de ce qu'on a vu ces dernières semaines, des calendriers, des dynamiques. Peu,
non, moi alors pour moi.
Je rappelle que donc Paris premier 59 points, deuxième voilà. Brest 47, troisième Monaco 46, quatrième Lille 43, cinquième Nice 43, sixième Lens 42. Et après on a Marseille, Rennes 39, Reims 38 et Lyon 34.
Ouais. Écoute, Paris on les laisse premiers, on est sûr.
Ah ouais.
Alors moi dans mon top 4 je les ai laissés premiers.
Moi aussi j'ai pas pris de risque là-dessus.
C'est le seul petit doute que j'ai. Après sur le
par
reste
contre,
par
contre, moi j'ai pas mis Brest en deuxième.
Ah alors.
J'ai mis les Lillois.
Ok.
J'ai mis les Lillois tout simplement. J'ai regardé vite fait comme ça. Ok bon ils viennent de faire un nul à Brest. C'est pas tout le monde qui fait un nul actuellement à Brest. Difficile à bouger. Mais par contre c'est la troisième équipe à la maison les Lillois. Et ils ont 5 matchs à la maison. Ils finissent sur 5 matchs à la maison. 3 à l'extérieur. Ils vont à Nantes, à Metz et contre Monaco. Moi, je les vois deuxième. Dans la dynamique actuelle.
Ah, ils ont un calendrier qui est pas simple quand même sur les prochaines semaines. Moi, c'est ça qui me dérange.
Mais
c'est
tu as le calendrier des autres.
Oui, oui, de toute façon, le calendrier est dur pour tout le monde. Mais là,
c'est pour ça qu'elle est belle.
Là, il y a quand même, ils ont le derby contre Lens qui arrive.
Vendredi prochain.
Très Lens va pas bien.
Très très rapidement. Enfin Lens va pas bien. Lens ils ont infligé 3-0 à Lyon il y a 10 jours, ils ont perdu contre Nice mais avant Nice ils ont battu Brest quand même. Tu disais tout à l'heure, il y a pas beaucoup d'équipes qui prennent un point à Brest, ils ont battu Brest. Voilà, moi je pense que Lille-Lens ça va pas être simple et surtout derrière le calendrier de Lille, je crois qu'ils vont ils reçoivent Marseille, il y a les deux matchs contre Aston Villa entre-temps qui va être dur aussi à gérer pour eux. Il y a Lille-Strasbourg et ils vont à Monaco derrière. Donc ça en fait ça fait Lille-Lens, Lille-Marseille, Aston Villa-Lille, Lille-Aston Villa et Lille-Monaco. C'est
voilà. Mais Strasbourg sera dans le ventre mou.
Oui, donc
d'ici là.
Moi globalement Lille, oui, pour moi ils seront sur le podium. Maintenant de là à les imaginer deuxième.
Donc troisième.
Ouais, je pense que ça fera troisième. Ouais.
Alors, donc deuxième, tu mets qui? Brest.
Deuxième, je mets Monaco moi.
Lionel. Monaco, tu les mets.
Monaco, un match par semaine, ils ont le meilleur calendrier.
Alors, moi, je vous dis juste sur Lille, j'hésitais à les mettre quatrième dans le top 4. Et pour moi, finalement, ils seront cinquième. Ce sera Ligue Europa pour le LOSC.
D'accord.
Parce que la Coupe d'Europe va leur prendre des forces. Ils ont un effectif, malheureusement, assez limité, je trouve, les Lillois. Et puis, sur le calendrier, par rapport aux autres, je pense que c'est eux qui ont en plus l'un des plus durs dans cette course. Donc, voilà, je les mets 4-5e, mais je ne les mets pas dans mon top 4.
Moi, Monaco, je les ai mis 3e. On a juste interverti avec 2e et 3e avec Walid.
Ouais.
Moi, je les avais mis 3e. Ils ont repris leur marche en avant. Normalement, Monaco finit toujours très fort. Là, ils ont eu quand même un petit
coup.
Mais je pense que Après, ils ont vraiment attention. Hein, ils ont des matchs quand même assez compliqués. Ils reçoivent Rennes.
Ils ont Rennes.
Ils ont Brest.
Et ils ont Lille. C'est les trois.
Et ils ont Lille.
Mais voilà. Le reste est plutôt.
Après, ils vont à Lyon.
Et à Lyon aussi. Hein, tu vas à Lyon.
Mais Lyon, moi, je pense par rapport aux autres calendriers, c'est ils vont à Metz, ils reçoivent Rennes, ils vont à Brest.
Voilà.
Moi, je pense qu'ils ont la qualité pour gagner à Brest, même si je respecte beaucoup Brest. Ils reçoivent Lille, ils vont à Lyon, ils reçoivent Clermont, ils vont à Montpellier, ils terminent avec Nantes. Moi, bon, pour moi, ils ont le meilleur calendrier. S'ils font pas les cons, excusez-moi de l'expression, comme
cagnotte.
Comme d'habitude, pour Monaco, c'est qu'ils prennent énormément de buts.
Ouais, ils ont un petit peu moins maintenant. Ils ont un match par semaine. Ils ont pas l'Europe comme Lille et comme Marseille, par exemple. Mmh. Moi, sincèrement, quand,
Marseille,
je répète,
tu les as mis dans le top 5.
Je vais y venir juste après, mais moi, je n'imagine pas. Monaco, à un moment donné, faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter les conneries. Et même pour le bien de notre championnat, faut que ça fasse deuxième. Conneries, ça, non.
C'est pas fou.
Non. Bah,
les bêtises, c'est mieux. Ça conneries, peut passer.
C'est dans
Oui, mais peut-être qu'à côté, il écrit langage familier quand même.
Ouais. D'accord.
Donc deuxième pour Walid et pour moi Monaco. Pour Lionel Le Losc, qui sera votre troisième en fin de saison?
Mon troisième, j'ai dit Lille, moi.
Donc toi, t'avais dit Lille.
Moi, j'ai dit Monaco.
T'avais dit Monaco. Et moi, la troisième place, je mets le RC Lens. Il y a eu cet accident. Pour moi, c'est un accident contre Nice. On va voir si le derby me donne raison ou pas. Mais je trouve que on retrouve une très bonne équipe lensoise. Là, il y a du banc à Lens en plus. Les recrues commencent à arriver. Le calendrier.
C'est quoi le banc à Lens?
Ton banc. Le banc lensois.
Ton banc lensois.
Bah, en fait, sur le milieu de terrain, entre le Andy Diouf, le Nampalis Mendy, Abdoul Samed qui est maintenant sur le banc, El Aynaoui maintenant qui a pris sa place là, au milieu de terrain. Hop, devant Eli Wahi, Wesley Saïd qui est très bon chaque fois qu'il rentre. Pereira da Costa qui explose.
Il est super, Pereira da Costa.
Oui, non, mais je te dis tout
le banc.
Fulgini, Thomasson, voilà.
T'as bien aimé l'entrée de Fulgini là sur Nice?
Pas tout le temps, mais de temps en temps, il fait des bons matchs.
Okay.
Donc pour moi, trois.
Tu m'as eu avec Wesley Saïd qui est mon chouchou. Lance troisième, ce serait une immense performance. Hein.
Ouais, mais il revient bien.
Mais oui, non, mais il faut pas. Attention, là sincèrement, c'est très dur.
Aussi fringant que ce qu'ils étaient.
Non, pas autant, notamment défensivement.
Ouais, défensivement, ça a baissé.
Mais je trouve que tout le monde est en train de se mettre au niveau.
Ils sont à la peine. Les transitions sont beaucoup moins vives qu'avant. Il y en a beaucoup moins.
Et précision très importante sur cette fin de saison. Lance a le meilleur calendrier. Il y a Lille et Rennes comme très gros.
Il y a Marseille
également, mais Marseille, je les vois pas forcément très bien finir.
Ok.
Voilà. Quatrième, les gars, pour compléter votre top 4.
Quatrième pour moi, Brest.
Brest,
je les vois pas dégringoler aussi bas que. À un moment donné, il va falloir être sérieux. Il reste quand même quoi, 8 matchs. Il reste 8 matchs.
Ce qui fait combien de points à prendre?
8 x 3, 24.
Bon.
Mais ouais, j'ai fait ça toute ma vie. Mais en tout cas, ouais, je pense que Brest va quand même maintenir le cap et va décrocher une quatrième place pour moi.
Lionel, est-ce que Brest joue la Ligue des Champions?
Moi, je vois cinquième, les Brestois.
Ah, alors qui est devant?
Pour moi, c'est les Rennais qui m'impressionnent.
Ah ouais?
Je les vois faire, ils sont dans une dynamique terrible. Stéphane fait un travail de fou. On voit les joueurs, ils sont vraiment motivés. Ils disent dans leur discours. J'aime beaucoup leur discours parce que ils se projettent tout le temps à chaque fin de match. Ils se projettent tout le temps sur le match d'après. Ils ne parlent pas d'Europe, ils ne parlent pas de tout ça. Ils jouent les matchs les uns après les autres. Ils sont carrément dans l'état d'esprit qu'il faut avoir pour performer à ce niveau-là. Par contre, et pourquoi je les vois? Parce que leur dynamique est terrible. Et ils ont un calendrier où ils ont toutes les. S'ils gagnent leur match dans la dynamique dans laquelle ils sont obligés pour moi d'être quatrième. Ils vont
Rennes, ils ont Monaco, Brest et Lens encore à affronter d'ici à la fin de saison.
Ils ont PSG aussi.
En coupe.
Rennes.
La coupe
va falloir la jouer.
Oui, bien sûr.
Monaco, tu vas à Monaco, après tu reçois Lens, tu reçois Brest.
Moi, ton histoire de coupe, elle plaît pas pour toi.
C'est ce qui me dérange un tout petit peu.
Ouais.
C'est ce qui me dérange un tout petit peu. J'ai peur que ils soient éliminés tout de suite de la coupe et que justement ils soient déjà dans la projection du. Ils savent que c'est au PSG, ça va être dit compliqué et tout, et que pour le championnat ils misent tout sur le
championnat. Ça leur met pas un coup s'ils se font éliminer?
Non, je pense pas.
Donc quatrième Rennes pour toi Lionel. Walid, tu nous as dit Brest.
Brest, je vous fais un petit topo sur le calendrier. Ils vont à Lorient, ils reçoivent Metz, ils vont à Lyon, ils reçoivent Monaco, ils vont à Rennes, ils reçoivent Nantes, ils reçoivent Reims, ils vont à Toulouse.
Ouais, c'est pas mal comme calendrier, je trouve, pour bien finir.
Ouais.
Je pense qu'ils vont terminer quatrième.
32-16,
parce que, Brest, il faut vraiment les respecter. Il n'y a aucun match où ils sont déclassés. Ouais. Aucun match.
Aucun, non. Ils sont très bons.
Et donc,
même quand ils perdent.
Est-ce que ton cinquième, c'est le Rennes de Lionel ou tu mets quelqu'un
d'autre? Mon cinquième, c'est Marseille.
Ok.
Mon cinquième, c'est Marseille parce que Marseille, je ne les vois pas plus haut. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils passeront contre Benfica. Et que ça va. Ouais, je pense. Après, okay. c'est
Mais pourquoi tu les vois pas plus bas?
C'est un pronostic.
Oui, c'est ça.
Ah, je vais venir.
Contre Benfica.
Non, mais parce que moi, dans mon esprit, je pense que s'il n'y a pas la Coupe d'Europe, Marseille est capable d'intégrer le top 4. Et moi, je pense que avec la Coupe d'Europe et avec ces deux matchs-là, plus le calendrier qui va être pas simple parce que là ils vont jouer le Paris Saint-Germain à la maison, ouais. ils vont aller à Lille, ils vont recevoir Nice, ils vont recevoir Lens. Je trouve que
c'est le pire calendrier là dans le top.
Surtout là dans le mois qui suit. Là,
ouais. Moi je pense qu'ils vont gagner contre Nice et Lens à la maison.
Okay.
Mais contre le PSG, contre Lille, ils gagneront pas. Et donc ils vont continuer à lâcher des plumes, mais ils vont pouvoir revenir sur le 6e et le 5e. Nice et Lens. Ils vont pouvoir revenir sur ces deux équipes-là et terminer. Et je pense
premier à domicile.
Hein?
Premier à domicile, l'OM.
Premier à domicile,
16e à l'extérieur.
Voilà, exactement. Donc je pense que Nice et Lens à la maison, ils vont gagner et ils vont être 5e. Je les vois 5e.
Dans un instant, on continue de dérouler pour la dernière place européenne, la Ligue Europa Conférence et puis le maintien. N'hésitez pas, 32-16, supporters de tous ces clubs, venez vous confronter à la réalité de cette fin de saison, c'est-à-dire à mon top 4. C'est Walid Acherchour qui est là. Lionel Charbonnier également. L'After, toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After. Merci d'être là ce soir. Grover Lord, Sonia, Mike Delfino, les habituels du week-end, de la semaine aussi sont là. Merci à vous. N'hésitez pas à nous appeler au 32-16 et à venir débattre avec l'After qui revient dans un instant.
RMC, 22h, minuit, l'After Foot.
Thibaut Giangrande.
Il est 23h18. Merci d'avoir choisi RMC une fois. En plus, elle est longue. Non seulement elle est forte, mais elle est longue, cette alerte. C'est en tout cas peut-être une bonne nouvelle. Ouais, c'est l'alerte. Le moment de vous inscrire pour tenter d'ouvrir le coffre RMC. Si vous voulez tenter de gagner 50 000 euros grâce au coffre, c'est le moment de jouer, d'envoyer coffre par SMS au 732-16. Coffre au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. L'un ou l'une d'entre vous sera avec nous vendredi 29 dans l'émission pour ouvrir le coffre RMC. Et peut-être, et on l'espère pour vous, parce qu'on adore vous faire gagner cette somme-là, remporter la somme de 50 000 euros. On continue avec Walid, avec Lionel, en attendant Julien Laurence dans une dizaine de minutes et on se projette sur ce Angleterre-Brésil de demain. On continue nos prédictions de fin de saison en Ligue 1. Dans une semaine, le sprint final est lancé, les 8 dernières journées. On a notre top 4, le top 5 dans quelques instants et puis le maintien. On vous attend au 32-16 pour venir confronter vos prédictions aux nôtres. Juste avant, un point sur les matchs en direct, Walid Acherchour.
Égalisation de la Bolivie Thibaut.
Ok. Un partout entre l'Algérie et la Bolivie.
Un partout sur une action où Issa Mandi s'est complètement déchiré sur un dégagement et le Bolivien qui met une lucarne incroyable. Un partout.
Tremble, Jeannot Rességuier.
Ouais.
La Colombie mène toujours 1-0 contre l'Espagne. Il reste une minute à jouer. Je vous rappelle que les Pays-Bas, dans le groupe de l'équipe de France à l'Euro, ont battu l'Écosse 4-0. Reprenons donc et concluons pour le haut du classement. Mais il y a Jimmy qui est là, supporter du LOSC au 32-16. Salut Jimmy.
Oui, salut.
Salut Jimmy.
Salut Jimmy.
Bon Jimmy, t'étais là en train d'écouter l'After, tu nous as entendu faire nos prédictions pour cette fin de saison, t'as entendu Lionel mettre le LOSC dauphin du Paris Saint-Germain, Walid les mettre 3e les Lillois, moi 5e, comment tu vois la fin de saison de ton club?
Bon, moi je la vois plutôt bien, donc 2e ou au pire 3e en fonction des résultats des autres.
Et objectivement maintenant? Non je plaisante.
Objectivement, en regardant le calendrier, on a les trois prochains matchs sont assez compliqués. Mais on reçoit deux fois. Mmh. Donc le derby, c'est le derby, donc forcément on va gagner. Marseille, ils sont pas très forts à l'extérieur. Et nous, on est plutôt bons à domicile, donc je le sens bien aussi. Mmh. Et après, il restera le match à Monaco qui sera compliqué.
T'as pas peur que la Coupe d'Europe, et d'autant plus si ça continue, on l'espère vraiment pour les Lillois, que ça prenne trop de force et que l'effectif soit un peu juste pour cartonner autant en Ligue 1 sur cette fin de saison?
Bon, on a quand même pas mal de blessés, mais après, avec le calendrier qui est un peu allégé, avec la Ligue qui a reporté nos matchs, je pense qu'on peut quand même souffler entre chaque match et pouvoir laisser l'équipe équipe plus ou moins type à chaque rencontre.
Oui, ça c'est la bonne journée, je sais pas, Lio et Walid, si vous avez vu la LFP qui annonçait ça hier ou avant-hier, c'est que les matchs de Coupe d'Europe pour le PSG, pour l'OM et pour le LOSC,
les Européens,
exactement, étaient décalés, les matchs qui auraient dû avoir
lieu, ces matchs
et retour de Coupe d'Europe. Bon, est-ce qu'il y a, t'as entendu des dingueries dans le top 4, est-ce que toi t'en as une à partager ou pas, Jimmy, comment tu vois ce top 4 de la Ligue 1, la Ligue des Champions?
Je pense que le top 4, moi je changerai l'ordre, mais je pense qu'il va rester quand même le même avec Paris bien sûr devant, et après Lyon, Monaco et Brest.
Lyon,
je les vois pas.
Attends, Lyon, Lille. Non, pas Lyon. Oui,
Lille, Monaco et Brest.
Ah ouais, parce que là, ça fait une sacrée
remontée. Brest, je les vois pas s'écrouler. Ça fait toute une saison qu'on attend qu'ils s'écroulent et ça arrive pas.
Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a les 4, ouais. Mais après, dans l'ordre, il faudra voir.
Jimmy, est-ce que t'as un avis sur le maintien ou t'étais vraiment sur Lille là?
Bon, après, pour le maintien, je pense que Metz et Clermont, c'est quand même clairement en dessous de tout le reste, quoi. Mmh. Quand on les voit jouer, autant Nantes, par exemple, ils font des mauvais matchs en ce moment, mais on voit qu'il y a quand même quelques joueurs. Autant Metz et Clermont, il n'y a rien à. Il n'y a presque rien à en retirer, quoi.
On donnera aussi nos prédictions pour le maintien dans un instant. N'hésitez pas, comme Jimmy, si vous voulez venir faire vos prédictions en direct dans l'after. À bientôt, Jimmy! Bonne soirée.
À bientôt, merci.
Bye bye, merci à toi d'avoir été là. Oui, juste concluons notre top 6 pour avoir notre dernier club européen, la Ligue Europa Conférence. Walid, Lionel, qui c'est que vous mettez à la 6e place?
Si, je m'élance, moi.
Ok.
Moi aussi.
Et moi, comme je les avais mis 3e, je mets Nice. Ce qui veut dire que Nice, qui est actuellement 5e, n'est pas dans votre top 6. Vous les voyez vraiment finir seulement la fin de saison?
Moi, je vois même potentiellement terminer 8e derrière Rennes.
Ils me font peur aussi.
Ouais. Après, de toute façon, c'est vraiment, Thibaut, là, on fait ce jeu-là, mais c'est très, très dur. C'est très, très, très dur.
Ah bah oui.
Là, avec les calendriers.
D'autant plus en Ligue 1.
Moi, je suis capable, dans 30 minutes, de te dire l'inverse. Hein. Si Lionel, il vient me chercher sur des arguments en me disant non, Walid, 4e, ça va être un tel à la place d'un tel. Sincèrement, on est là de la 4e place jusqu'à la 8e. On se tient en 4 points. 43-39.
Je pense que tu peux aller même jusqu'à la 7e parce que je prédis que la 7e sera européenne.
Oui, si le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France.
Et à ce petit jeu-là, je vois l'OM 7e et européen.
Toi, tu vois l'OM 7e, hein. Donc pas bouger.
Ouais, ça va être compliqué.
Bah, ils sont un peu décrochés. Ils sont 7e avec 39 points, Lens à 3 points d'avance à la 7e place.
4 matchs qui arrivent, ils me font très peur pour les Olympiens.
Il reste 8 matchs quand même.
Oui, 24 points.
Ouais.
8 matchs.
Ouais, mais
il faut faire des bonnes séries, parce que les autres avancent également.
Et puis, je vois les autres avancer plus vite, c'est-à-dire qu'ils vont. L'OM aussi, il doit rencontrer des.
Ouais, mais
des
l'OM, ils font Marseille. Ils font Nice et Lens, en fait. Donc, sur la 5e et la 6e.
Oui, ça dépendra énormément de
ces matchs-là.
Je me suis trompé, moi. 6e, c'est pas Nice, c'est Rennes, pardon. Et Nice, c'est 7e, pour moi. Donc, 7e, Lionel, tu nous as dit.
Et donc, qui est 8e chez toi? C'est Marseille?
Non, c'est Reims.
Et Marseille est 9e.
Marseille est 9e.
Ouais. Tu les as mis descendent.
L'OM a le pire des calendriers. L'OM est un peu décroché. Enfin, décroché légèrement, mais il y a 3-4 points de retard par rapport à ceux de devant. Et la dynamique plus la Coupe d'Europe, il va falloir voir également. Je sais pas,
les 4 prochains matchs sont compliqués pour l'OM.
Mais après,
fait PSG, Lille, Benfica et.
Tu termines avec Lorient et Le Havre, par exemple.
Les deux derniers matchs, mais tu peux être déjà malheureusement trop loin, en fait.
Mais tu as vu la Ligue 1 en ce moment, ça avance.
Je regarde vendredi, samedi, dimanche en général.
Lorient, c'est compliqué à jouer.
Non, mais tu vois.
Je vois tous les matchs.
Je parle des matchs. Tu les vois, les matchs.
Ah, tu vois
des équipes.
Le scénario.
Mais tu vois des équipes avancer. Mettre beaucoup de points en ce moment.
Non, mais c'est pour ça que je ne vois pas l'OM en prendre autant que vous. C'est justement pour cette raison, en fait.
Non, parce que par exemple, j'ai donné Monaco, moi, 2e. Mais Monaco, ils viennent de faire de partout contre Lorient à la maison.
Ah, oui.
Ils ont pas gagné. Monaco n'a pas gagné un match à la maison, il me semble, depuis belle lurette. J'avais des cheveux, je crois.
En décembre.
Non, j'avais déjà plus de cheveux.
Non,
mais je me suis un peu enflammé. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est. Moi, je ne écarte personne, en vrai.
Ah oui, exactement.
Non, c'est dur de.
C'est très dur.
Et pareil pour le barragiste. Hein.
Alors justement, le barragiste, est-ce que vous partez sur le fait que je vous donne les points en bas que c'est fini pour Metz et Clermont 18e, 20 points, Metz 17e, 23.
Non, c'est pas fini. C'est pas
fini. Nantes 16e, 25 points.
Moi, je pense que ça
Lorient
va pas bouger, ça.
Et Montpellier 26 points, Le Havre 27, Strasbourg 29, Toulouse 29.
Metz Clermont, pour moi, ça va pas bouger.
Ouais,
malheureusement.
Ça va pas bouger, mais c'est pas fini.
Ok. mais ça va pas bouger
là,
quand même.
Non mais le week-end là où Clermont gagne contre le Havre, ils reviennent à 6 points, c'est pas terminé 6 points, mais oui, je pense que ça va pas bouger.
Et malheureusement pour les Messins là, j'ai vraiment regardé les calendriers,
calendrier de Metz.
Ah ouais, c'est catastrophique.
Moi je crois que les deux pires calendriers c'est Metz et Lorient.
Oui, Lorient c'est compliqué également, absolument. Barragiste qui est la place de
Lorient.
Lorient pour toi.
Lorient, moi ouais. Je pense que le retour d'Antoine, il y a mieux, mais pour moi le retour d'Antoine, quand je regarde quand même l'effectif mis à disposition nantais, je pense qu'Antoine est capable de refaire quelque chose et ils sont capables de s'en sortir et les barragistes, pour moi ça pourrait être les Lorientais, même si c'est difficile de les condamner. Enfin, bon, ils sont pas condamnés, ils vont faire les barrages, mais. En plus, c'est une équipe qui joue bien. Enfin, franchement, moi, cette Ligue 1, elle me plaît. Hein. Elle me plaît. Hein. Pas tout. Il y en a beaucoup.
Mais ouais. Non, pour moi, ça va jouer entre Nantes, Lorient, Le Havre. Parce que Le Havre, attention, hein, Le Havre, moi, je les suis beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour ce qu'ils font. Mais
ils ont fait
un match catastrophique contre Clermont. Et là, tu vas jouer Montpellier à la maison. Tu les joues sans Targaline. Carton rouge, sans Kechtak après un jaune, qui sont les deux, pour moi, les deux joueurs créatifs au milieu de terrain, sans Sanganté, ton capitaine. Et c'est là où tu vas jouer ton maintien, parce que tu joues Montpellier et Nantes à la maison sur les prochains matchs. Montpellier et Nantes à la maison, ce qui peut te donner de l'air. Et après, derrière, tu vas te déplacer à Lens, tu vas te déplacer au Parc, tu reçois Marseille. Donc, attention au Havre sur ces deux rendez-vous-là, contre Nantes et contre Montpellier. Si ça se passe bien à la maison pour le Havre, sur ces matchs-là, là, je pense que tu éviteras d'être barragiste, parce que Lorient, ils sont quand même capables d'aller chercher des points un peu partout. Ils ont Bamba, notamment leur neuf devant.
Ça, c'est une belle recrue.
Qui met des buts.
Ouais, ils ont un calendrier pas mal.
Ce que Bayonne n'est pas en
Lorient, ils ont pas un calendrier facile. Hein.
Ouais, mais par rapport aux autres, ils s'en sortent pas si mal.
Si, ils ont un gros calendrier. Parce qu'en plus, t'en a parlé tout à l'heure, mais. Lorient, en fait, avec l'histoire.
Toutes ces équipes-là, de base, ont forcément un gros calendrier, évidemment.
Mais avec l'histoire des Coupes d'Europe, là. Lorient, ils sont
décalés, ouais.
Oui, mais Lorient, ils sont. C'est les dindons de la farce, parce qu'en fait, ils vont jouer 3 matchs en 7 jours.
Oui, bah oui, parce que le match est calé, sera en milieu de semaine.
Ouais, et donc, je crois qu'ils vont PSG, Toulouse et un autre gros match en 7 jours. Donc, ça va être.
Et Nantes, pour moi, les Nantais, ils ont pour eux quand même cette expérience de jouer ce avec cette pression négative.
Avec le retour de
Comboiré, c'est-à-dire qu'on remet les mêmes ingrédients, ils vont retrouver des repères. Nantes, plus facile quand même à gérer quand t'as des repères.
Nantes,
contrairement au Havre, par exemple.
Les 4 prochains matchs, oui, t'as peut-être raison, mais sur les quatre prochains matchs, c'est tu vas à Nice, tu reçois Lyon, tu vas au Havre, qui va être très important ce match-là, et tu reçois Rennes.
Le fait d'aller à Nice, pour moi, c'est mieux parce que les Niçois doivent absolument se projeter. Et Nantes, connais Antoine. Quand tu vois l'effectif de Nantes, ça va être que de la contre-attaque.
Moi, pour le barrage, bien sûr. Au vu des dynamiques, des calendriers, etc., j'hésite entre Le Havre et Montpellier. Et d'ailleurs, Le Havre Montpellier affiche entre les deux équipes dimanche prochain. Donc, en fonction de ce match, je me prononce.
Moi, je suis incapable, sincèrement, de dire le barragiste.
Je garde tout ça de côté.
Et pour la montée de Ligue 2 en Ligue 1,
on s'arrête là. Auxerre, la JOCR évidemment.
Ah, merci.
Saint-Etienne aussi, on espère les retrouver.
On va dire Lorient.
Pour la montée en Ligue 1.
Non, pour
le barragiste, ouais. On se rappellera de tout ça, évidemment,
et
on
verra
comme on aura été mauvais. 23h30, c'est l'after. Walid Acharchour, Lionel Charbonnier, Julien Laurence nous rejoint dans un instant. Beaucoup de matchs internationaux en ce moment. Il y aura le France-Allemagne demain. Il y aura un sexy Angleterre-Brésil à Wembley. Julien sera là pour en parler. On fera un point là sur les autres matchs du soir et le meilleur de l'actu du jour à suivre. C'est l'after sur RMC, ne change rien.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Il est 23h34, vous êtes sur RMC, Walid Acharchour, Lionel Charbonnier, on est en direct jusqu'à minuit. On vient d'enregistrer la petite pastille, c'était pas dans l'after, vous savez, si vous écoutez l'after en podcast.
A pas loupé, celle-là.
Voilà, avec du grand Walid, vraiment, sur ce c'était pas dans l'after. Vous aurez ça un peu après minuit. N'hésitez pas à aller écouter ça, vous allez voir.
Il était perturbé, je le comprends.
Ouais. Alors perturbé, pourquoi effectivement Walid? Parce que pendant ce c'était pas dans l'after, alors attends, pardon, parce que moi aussi il faut que je te lance correctement. Pendant ce c'était pas dans l'after, Walid Acherchour, il y a eu un nouveau but, Algérie-Bolivie.
Oui Thibaut, but de la Bolivie.
Excellent, excellent. Et donc ça fait 2-1
désormais. Ça me fait pas rire, ça me fait pas rire.
Faut donner toutes les infos.
Ça me fait pas rire. Ouais, non, la Bolivie qui vient de mettre ce deuxième but, donc 2-1 pour la Bolivie sur un coup franc concédé de manière très idiote de la part de Zerouki, et derrière un marquage très très laxiste des Algériens et ça fait but.
Qui est le gardien ce soir là?
Mandria qui repousse
Belmadi revient, non? On veut le retour.
Non, mais en plus, c'est contre le cours du jeu parce que je trouve que l'Algérie, quand même, globalement, maîtrise les débats. Mais encore une fois, tu prends deux buts très, très, très évitables.
C'est Alger, le match, c'est ça? C'est Alger, ce match, je crois, ce soir?
J'ai pas eu la confirmation.
Au stade du 5 juillet.
Au stade du 5 juillet?
Ouais.
D'accord.
Ouais, merci, Walid Acherchour, en direct du stade du 5 juillet.
Non, je suis là.
Ah ouais, ok, merci. Walid, premier degré, comme on dit. affiche historique et alléchante demain soir à Wembley, les gars. Angleterre-Brésil. Les Anglais préparent l'Euro, bien sûr. Les Brésiliens, la Copa América. Salut Julien Laurence.
Salut à tous.
Salut Julien.
Salut Julien.
Bon, Julien, difficile de faire plus sexy. Enfin, je parle du match, mais c'est Angleterre-Espagne. J'imagine qu'en Angleterre, on attend ça impatiemment également.
Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et surtout qu'en plus, c'est suivi ensuite par un Angleterre-Belgique qui, en tout cas sur le papier aussi, est vraiment pas mal, vraiment sexy, comme tu l'as dit. Ouais, donc oui, on attend beaucoup. Parce que, comme le dit Polo souvent, le lundi soir notamment, les Anglais sont quand même champions du monde des matchs amicaux ou des matchs de qualification en général. C'est après, ça se complique pour eux. Donc ça devrait être un bon test, même s'il y a des absents des deux côtés, même si ça reste quand même au final un match amical, faut le dire. Les places se sont vendues très vite. Mmh. Il y aura une belle ambiance, j'imagine, et malgré la polémique du maillot dont on parlera tout à l'heure, oui. C'est vrai que ça va être bien pour l'Angleterre. On va pouvoir juger un petit peu mieux où ils en sont, ce que Southgate pense, ce qu'il veut faire, et tout ça. Ça va être pas mal.
Mais alors sans Saka, malheureusement, qu'est-ce qu'il a?
Ouais, sans Saka, sans Kane non plus, Grealish est pas là déjà à la base, sans Alexander Arnold, donc il y a pas mal d'absents quand même côté anglais, côté brésilien aussi d'ailleurs. Par rapport à une équipe type, on pourrait dire, ou celle qu'on pourrait voir à l'Euro, notamment pour Kane et Saka, surtout si Kane ne joue pas, ça pourrait être Watkins qui est en pointe, on aura quand même un milieu, le milieu Rice, Bellingham, c'est quand même bien, très haut niveau. Après, on espère que le jeune Kobbie Mainoo de Manchester United, qui est arrivé tard dans ce groupe-là, puisque très bizarrement, il n'était pas dans la première liste. Donc on connaît le Sylvain Ripoll anglais, hein, on sait qu'il fait n'importe quoi souvent. Donc il l'a. Après, il s'est rendu compte quelques jours plus tard qu'il s'était trompé, donc il a fait une bêtise. Donc il l'a ramené en fait, en parlant d'incertitude sur certains joueurs, de petites blessures, sans que ce soit vraiment des vraies blessures. Tu vois, c'est pas, il a pas remplacé au pied levé un autre joueur blessé. Il est juste venu en surplus un peu, entre guillemets. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui vont être intéressantes quand même. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, surtout côté anglais. On aurait voulu voir une équipe assez proche de l'équipe type qu'on verra sûrement à l'Euro. Et finalement, on l'a dit, on peut rajouter Trippier aussi, on peut rajouter Shaw et ils n'ont plus d'arrière gauche non plus. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs dans des positions un peu clés qui manquent. Mais ça devrait quand même être pas mal.
Il y aura la Belgique après mardi. Ouais, le Brésil, on a une idée aussi du 11 brésilien là pour demain.
Oui, alors moi, ce qu'on devrait voir, par exemple, Richarlison ou Rodrigo, je pense en pointe. Après, t'auras Rafinha et Vinicius Junior sur les côtés. Après, c'est plus défensivement où, à mon avis, tu vas avoir quelques innovations, mais par exemple je pense que Beraldo va être titulaire, qui va jouer en défense. On aura Bruno Guimarães et Paqueta au milieu avec João Gomes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le milieu de terrain de Wolverhampton en Angleterre qui fait une super saison, qui est un jeune milieu de terrain très agressif. C'est pas le meilleur technicien du monde, mais c'est un joueur qui a un coffre vraiment incroyable. Et donc ça peut être pas mal. Et puis Bento dans les buts, je pense aussi. Donc on aura un Brésil qui sera un petit peu changé, avec encore eux aussi de leur côté pas mal d'absents, mais quand même des très bons joueurs aussi.
On est toujours sur RMC, évidemment, sur YouTube. Bien sûr, l'avantage de YouTube aussi, des fois, c'est pour nous de voir qu'on a dit des bêtises. Comme le font remarquer Sonia et Saïd sur le chat, c'est au stade Nelson Mandela.
Je me dis, c'était un des nouveaux stades.
En fait, j'avoue que je le savais, je voulais juste tester Walid.
Je me disais, le stade du 5 juillet, je le connais quand même.
Il y a toujours 2-1. La polémique, t'en parlais, Julien, concerne alors pas le maillot que les Anglais auront demain face
à Brésil. De partout.
Ah.
De partout.
Alors attends, bouge pas. Walid Al-Cherchour, un but au stade Nelson Mandela d'Alger.
But pour l'Algérie, Thibaut.
Il est bien, ça donne envie d'avoir la suite.
Tu vois, t'as pas la suite derrière. But de Benzia, égalisation de l'Algérie contre la Bolivie.
Ok. Et donc plutôt mérité a priori, si vous
souhaitez. Oui, mérité.
De partout. Donc combien de temps? Le temps, le score, Walid?
De partout, 76e minute au stade Nelson Mandela. Algérie-Bolivie.
Merci beaucoup Walid. On retrouve Julien Laurence, notre drôle de dame anglaise. Oui, la polémique, on a parlé des Allemands tout à l'heure et ce changement d'équipementier. Là, l'équipementier ne change pas, mais il y a un petit changement sur le maillot que portera l'Angleterre pendant l'Euro. Et pareil, ça prend une tournure politique.
Alors ça prend une tournure. Je pense que même eux, sincèrement, ils n'ont pas vu venir celle-là. Donc sur le nouveau maillot de l'Angleterre, pour l'Euro donc... On a vu cette semaine tous les équipementiers, pour toutes les équipes notamment qualifiées, ont sorti les nouveaux maillots, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On en a parlé un petit peu lundi, mais celui de l'équipe de France, que les cuissons soient un peu gros, le coq un peu gros. Bon, bref, les Anglais, qui on l'avait dit aussi lundi, hein, ça reste assez traditionnel en général dans leur maillot, notamment le maillot à domicile. Cette fois, Nike sur le maillot à domicile, derrière le col en fait. Derrière le cou, si tu veux, ils ont mis le drapeau de Saint-Georges, le drapeau anglais, blanc avec la croix rouge au milieu. Mais elle est pas rouge, la croix. Elle est un peu plus foncée, avec une teinte de violet un peu. Enfin voilà, elle est pas normale. En fait, c'est pas le drapeau normal comme tu pourrais voir. C'est comme si nous, on avait au lieu du bleu, blanc, rouge, on avait un petit peu joué avec les couleurs du maillot français, par exemple. Voilà.
Et comment ils expliquent ça? Pourquoi ils ont fait ça?
Si tu veux, ça peut ressembler un tout petit peu, même c'est pas exactement les couleurs du drapeau arc-en-ciel, par exemple, de la communauté lesbienne, gay, etc. Mais ça peut y ressembler un tout petit peu. Donc, Enag a dit, c'est pour l'unité, pour inclure tout le monde, que tout le monde se sente inclus. On a changé un petit peu. Pour moi, je l'ai pris comme ça. C'était un petit peu pour tout le monde se sente anglais, notamment si tu étais aussi, c'est parti de la communauté gay. C'était un fiasco. Enfin, c'est pas un fiasco, mais ça a créé une polémique incroyable. Richie Sunak.
Mais ça a été validé. Excuse-moi, Juju, ça a été validé quand même parce qu'il présente le maillot normalement à la Fédé. Et la Fédé valide ou pas?
Ouais, et puis la Fédé,
continue
d'ailleurs. Ouais, continue à valider. Alors on a posé la question à Sadgate aujourd'hui, qui dans son rôle en plus, c'est un peu compliqué. Donc il a dit c'est pas ma priorité. J'ai quand même d'autres choses à faire que de m'occuper du maillot et si les gens aiment ou pas la croix Saint-Georges dans le coup. Il a raison. Les joueurs non plus finalement, apparemment en tout cas. Ça les a pas trop gênés non plus. Donc c'est vrai que c'est surtout par rapport à, on va dire, une certaine frange des supporters. Même si politiquement, effectivement, tout le monde de tous bords, Keir Starmer, qui est donc le leader de l'opposition, donc du Parti Socialiste, si vous voulez, anglais, c'est aussi montré assez déçu par l'initiative de Nike et de la fédération, mais t'as quand même l'impression un petit peu, selon moi, que c'est que la partie un petit peu, on va dire, très patriotique, pour le mettre comme ça, sans utiliser un mot qui est un petit peu plus grave peut-être, s'est senti vraiment vraiment offensé par le choix de Nike de changer un tout petit peu la croix Saint-Georges.
Ok, on se retrouvera demain, Julien, après ce Angleterre-Brésil. Tiens, juste, toi, tu le sais évidemment, Lionel et Walid, là, donc Angleterre-Brésil, on attend du grand spectacle. Vous rappelez, donc la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était il y a 7 ans. Vous vous souvenez le score?
Non, pas du tout.
0-0. On espère un peu mieux demain, Julien.
Non,
demain,
on espère. Angleterre-Brésil, c'est Coupe du Monde 2002.
Il y avait eu aussi, c'est la dernière fois qu'ils se sont affrontés en compétition.
Oui, c'est un classique. Très bien raconté en plus dans le reportage de 2002, je crois que c'était sur Canal.
Yeux pas dans les bleus.
Non, avec le Brésil, avec Beckham, Owen, tout le monde raconte, c'était super intéressant. Avec ce coup franc de Ronaldinho, ce maillot bleu.
C'est toujours pas s'il a fait exprès d'ailleurs.
Ouais, ce maillot bleu Nike là, incroyable, quel maillot.
Mais Brésil-Angleterre, moi, la première image qui me revient, comme ça, c'est la tête de Pelé.
Ah oui, c'est Banks, toi. Oui, mais toi, t'es gardien, c'est pour ça.
Avec l'arrivée de Banks.
Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est ah, c'était en Angleterre. Oui, t'as raison.
C'est ça.
Où il avait dit
la première image, tu me dis Brésil Angleterre.
J'ai marqué, mais Banks
l'a arrêté.
Exactement. À demain, Juju. Merci. Bonne soirée.
Merci, les gars. À demain.
Bye bye. 23h44. L'after en direct jusqu'à minuit. Willy Dachershour.
Willy.
Lionel Charbonnier. Putain, je pensais qu'en plus, c'était pas assez crème.
Non, ça passe pas crème. On est là. Ouais. On entend, en fait, on a des oreilles.
Ouais. Willy Dachershour et Lionel en direct jusqu'à minuit. Dans un instant, le meilleur de l'actu du jour. On va parler des espoirs ou encore de l'arbitrage, les clubs qui montrent au créneau. Lannois dehors, maintenant ils veulent la peau d'Anthony Gauthier.
Hein.
Ouais.
C'est dingue ça.
Il y en a, oui, qui veulent la peau d'Anthony Gauthier.
Non, qui montrent au créneau des clubs qui se plaignent de l'arbitrage.
Oui. Bah là, il y en a tellement un paquet qu'il y en a 17 qui ont écrit une lettre en demandant la tête d'Anthony Gauthier.
Ah ouais.
Ça fait effectivement 17 sur 18, ça fait un bon petit paquet. On vous explique tout ça dans un instant. C'est l'after sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
23h47, on est en direct avec Lionel Charbonnier, Walid Dachershour. Merci d'être là. Bon début de week-end, le meilleur de l'actu du jour. Auparavant, un point sur ce match amical entre l'Algérie et la Bolivie. Walid Dachershour.
Toujours 2-2, 86e minute, Algérie-Bolivie. L'Algérie essaye de. D'arracher le match dans les dernières minutes, mais pour l'instant ça passe pas.
À tout à l'heure, Walid. Ce vendredi 22 mars, dans l'after, on vous offre une expérience unique. 2 places pour le match Sénégal-Bénin qui aura lieu mardi prochain à Amiens à 20h30. Vous allez pouvoir assister au match en loge, 2 places, mais également découvrir les joueurs du Sénégal et en étant accueillis en bord terrain et en coulisses. Pour remporter cette expérience RMC, alors attention, soyez prêts, écoutez bien. Appelez-nous au 32-16. Le premier qui nous appelle et qui veut participer et qui dit je veux les... Non, c'est maintenant. Le premier qui appelle au 32-16 et gagne ce que je viens de vous dire pour ce match de mardi. Donc voilà, n'hésitez pas.
Une immersion dans l'équipe du Sénégal.
Exactement, un beau cadeau.
Comment ça, une immersion?
Je comprends pas.
Hey, tu rencontres les joueurs, tu parles avec les joueurs et tout ça.
Tu peux jouer avec le Sénégal?
Non, il faut avoir le niveau quand même.
Tu peux discuter. Non, parce que pour jouer avec le Sénégal, déjà, il faut être sénégalais, sinon tu peux pas.
D'accord. Hein. Donc c'est quoi l'immersion?
L'immersion.
Tu es dans le vestiaire.
Tu parles avec eux.
T'es en train d'écouter l'émission de radio qu'on est en train de faire ou pas? Parce que je l'ai expliqué juste avant, c'est pour ça.
Non, mais j'aimerais bien. Il y a des choses qu'on ne comprend pas d'un coup.
D'accord. Donc là, en fait, tu vas pouvoir découvrir les joueurs du Sénégal en étant accueilli en bord terrain et en coulisses. Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir aller.
C'est quoi les coulisses du vestiaire?
Je pense que tu rentres pas dans le vestiaire, mais les couloirs.
Dans etc. le couloir quand ils vont arriver, tout ça, tu vas aller.
C'est fort.
Un super cadeau, quoi.
C'est très très fort.
Le meilleur de l'actu du jour a commencé par les espoirs, les gars. On en parle énormément de cette équipe de France Espoir, parce que tous les débats, Mbappé, Benzema, on en a parlé cette semaine, le tirage au sort, c'est cette équipe de France, l'équipe de Thierry Henry, qui jouait un match de préparation pour les JO contre la Côte d'Ivoire à Bordeaux. Victoire 3-2. Pas un bon match des Bleus, qui ont été menés 2-1 avant de retourner le match, grâce notamment...
Ça, c'est déjà bien, c'est une bonne nouvelle.
Ouais. À une bonne entrée de Cherki, à nouveau comme avec Lyon il y a quelques semaines. Les buteurs Désiré Doué doublé plus Odobert.
Et Barcola, on sait ce qu'il a?
Barcola est sorti sur blessure après 25 minutes de jeu, il s'est touché les ischios. Blessure musculaire, on nous confirme, on n'a pas la durée de l'indisponibilité.
Avec un bon Lucas Chevalier aussi, non?
Il a fait pas mal d'arrêts.
J'ai pas vu le match, mais c'est ce qu'on m'a dit.
Ouais, il est proche
du championnat d'Europe.
De l'équipe de France?
Ouais.
Ah
non, je pense que c'est un peu trop tôt, mais il le mériterait, oui.
À la place de...
Troisième gardien, moi, je le prends.
Non, là,
à la place d'Areola.
Avec ce qu'il vient de dire sur Areola, sa saison à West Ham, etc., je ne vois pas changer.
Deschamps, il va pas...
Surtout qu'en plus, les JO...
Le groupe, c'est important pour Deschamps, quand même.
Ouais.
Non.
Ouais, mais écoute, moi, je pense qu'il faut commencer... Quel âge il a, Areola? 29?
Mais là, il y a les JO, Lionel, il y a les JO. Il faut laisser quand même des joueurs aux JO.
Oui, t'as raison. Après les JO.
31 d'ailleurs même maintenant.
En plus Henri a dit que ça pouvait être son capitaine Lucas Chevalier.
Ouais. Bah tiens, écoutons Thierry Henry justement sur la blessure de Barcola. Lionel, il en a parlé au coup de sifflet final au micro de Valentin Jamin.
J'ai eu un petit moment de flottement. Je vais être honnête et je pense que tu le sais. On fait vraiment attention à tout. On essaye de pas mettre les mecs dans des difficultés. Je suis pas en train de lancer un message, mais Arnaud Calimundo est arrivé avec un petit problème au mollet. On a tout de suite dit. Tu vas jouer les États-Unis. Malo aurait peut-être pu rester et on voir si on peut forcer. Ça sert à rien. Rentre chez toi, t'es malade. Donc vraiment, il n'y avait rien avec Barco. C'est quand même important de le dire. Il s'est juste malheureusement blessé là. Et bien sûr que c'est énervant. Parce que tu ne veux pas voir ton joueur déjà se blesser, premièrement. Les échéances qu'il a avec le PSG, je ne sais pas exactement, bien sûr, combien de temps. Attention, je ne suis pas docteur. Mais ouais, c'est quand même, excusez-moi du terme, mais chiant.
Voilà pour Thierry Henry. Les États-Unis, c'est le prochain match amical lundi hein, pour les espoirs. Donc effectivement, on va surveiller ça. Mais bon, les ischios derrière.
C'est les ischios.
Bah, il est sorti en se touchant les ischios. Ouais. Ça peut faire plusieurs semaines, ça, non?
Non, mais je comprends. Oui. Bah, tout dépend. Ça a saigné. Si c'est une grosse contracte, enfin. Élongation ou.
En tout cas, une chose est sûre, après ce match-là, dépend. C'est quand même qu'il y a du boulot. Hein. C'était vraiment pas un super match des
espoirs. Moi, j'ai pas pu voir la rencontre, mais oui, apparemment, c'était vraiment. Non, et surtout, le dernier rassemblement aussi était déjà compliqué. Oui. Hein. Oui. Contre la Corée et contre l'Autriche, j'avais vu les matchs.
Et là, ça commençait à être des vraies équipes. Quoi. Et avant, c'était Riri, Fifi, Loulou, ça allait. Mais là, quand il a fallu aller dans le dur, c'était.
On a beaucoup critiqué. Moi, j'aime beaucoup Thierry Henry, mais on a critiqué quand Sylvain Ripoll, ça jouait mal. Il faudra qu'on soit cohérent aussi et avec la même exigence.
Là, ce qui est bien, c'est que mentalement, au moins, ils ont gagné ce match. Ils sont allés l'arracher. Ouais. C'est déjà quelque chose de mieux. Mais par contre, après, je comprends aussi Thierry Henry qui se morfond un petit peu sur la blessure d'un joueur parce que tu prends jamais. Déjà, t'entends les entraîneurs des clubs qui disent bah voilà, on l'a envoyé en équipe de France. Il revient, il est blessé, il allait bien et tout ça. Mais il faut savoir, et c'est ce que je te disais en off, Thibaut, que ce soit les sélectionneurs ou les équipes et tout ça, il y a un gros suivi médical. Quel qu'il soit musculaire ou même s'il y a des rhumes ou des ça selon les périodes et donc le staff de l'équipe de France envoie des messages à tous les coachs au staff technique et donc le staff et Thierry Henry était au courant que Barcola allait très très bien.
Je suis content pour Désiré Doué aussi parce que c'est un joueur que j'apprécie vraiment. Je pense que c'est l'un des joueurs les plus talentueux qu'on a là actuellement en France.
Je vous invite à regarder son dernier but avec un contrôle.
J'ai pas vu du tout le match.
Non, c'est mon football.
C'est celui de tout le monde en fait.
Ouais, c'est vrai.
Un mot de l'arbitrage français. Ça faisait longtemps. Sachez qu'aujourd'hui, 17 clubs de Ligue 1 ont écrit une lettre ouverte pour demander la démission d'Anthony Gauthier, le directeur de l'arbitrage de la Fédé. Les clubs demandent le changement de monsieur Anthony Gauthier, avec qui le dialogue et la confiance sont définitivement rompus. Écrivent 17 donc des 18 clubs de Ligue 1. Stéphane Lannoy, donc on vous rappelle, a été licencié déjà il y a quelques jours et on vous en parlait dans l'after hier. Anthony Gauthier a donné quelques nouvelles directives pour la fin de saison en milieu de semaine. Bon, voilà, le président de Ligue 1 arbitre. Le groupe vit bien, je pense qu'on peut dire en résumé.
Oui, on a ce sentiment là, ouais. Mm-hmm.
Vous dire également que
Est-ce que je peux dire juste parce qu'à chaque fois on tape sur les arbitres et tout ça. L'autre fois j'ai vu un Monaco Lorient. Très très bien arbitré par Monsieur De Chépy. À mon goût, j'ai trouvé pas du tout intrusif et toujours des décisions dans l'esprit. Il revenait à la faute, même si c'était pas dans la seconde, il revenait. J'ai trouvé Monsieur De Chépy et voilà. Donc à chaque fois on leur tape dessus, mais lui il a été très très bon.
But de l'Algérie.
Walid Acharchour en direct.
But de l'Algérie qui. Bon, je suis pas Hamza Rahman, hein, mais l'Algérie qui va aller chercher cette victoire, ce premier match sous l'ère Petkovic. 3-2, but d'Aïssa Mandi qui se rattrape de sa première bévue sur l'égalisation bolivienne. Voilà, 94e minute, au bout du bout du bout du bout.
Excellent, ça c'est vraiment le truc de commentateur, au bout du bout.
L'Algérie qui va chercher cette victoire, la première de l'ère Petkovic. Elle n'a pas été simple, mais c'est une bonne nouvelle.
Merci Walid.
Merci Walid
Resegui. Walid Resegui, évidemment. Le procès Saïd Chaban, on a parlé hein, dès le début d'ailleurs sur RMC, condamné aujourd'hui à 2 ans de prison, dont un avec sursis pour agression sexuelle. Le jugement a été rendu aujourd'hui. Ses avocats ont annoncé dans la foulée l'intention de faire appel. Saïd Chaban a été relaxé au bénéfice du doute pour les faits concernant l'une des 7 plaignantes d'anciennes employées du SCO d'Angers de l'entreprise de charcuterie de Saïd Chaban, qui avait dénoncé des étreintes forcées, des attouchements aux fesses et à la poitrine. Voilà pour la condamnation. Sachez qu'également lundi débute à Bobigny un deuxième procès pour Saïd Chaban dans une affaire d'exercice illégal de la profession d'agent. Une bonne nouvelle à vous donner concernant Albert Ellis. Il va mieux, il poursuit sa rééducation. Souvenez-vous, il a été victime d'un grave traumatisme crânien le 24 février pendant un match des Girondins. Il avait été placé quelques jours dans le coma artificiel. Il peut s'exprimer normalement maintenant avec ses proches. Il a pour la première fois posté une story sur Insta. Voilà, c'était tout bête, mais il n'en avait pas depuis près d'un mois. Donc
une très bonne nouvelle.
Ça va mieux pour Ellis.
Il est très content.
Et pour conclure, Vitinha, l'ancien Marseillais, Vitinha du Genoa, qui a parlé, je ne sais pas si vous avez ça aujourd'hui, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Il dit, je peux seulement dire merci aux Genois, le staff, le club, mes coéquipiers. Ici, il y a des gens qui m'aiment, m'appuient et me soutiennent. Beaucoup de clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats. Au Genoa, ce n'est pas comme ça. Le club vous suit, vous aide. Et cela permet au groupe de grandir. Il a déjà dit Vitinha qui voulait rester au Genoa à l'issue de la saison, tout en étant conscient que d'autres facteurs entrent dans la discussion.
Bon. Après, peut-être que quand le Genoa mettra 25 millions d'euros sur Vitinha, ils seront peut-être un peu plus exigeants avec lui.
Après, c'est pas très sympa. Oui. Petit tir pour les Marseillais.
Non,
quand même,
après, c'est pas de sa faute. De toute façon, Vitinha, il a pas demandé à être acheté à 32 millions d'euros. Ouais. La faute, elle vient de la part de l'Olympique de Marseille. Non.
Mais là, bon, là c'est même dans l'accompagnement. Il a l'air d'être.
Les contextes sont quand même très différents. Mais si Vitinha, il est bien mieux au Genoa et que le Genoa lève une option intéressante pour l'Olympique de Marseille, ce sera bien pour tout le monde. J'ai quand même cette impression-là, parce que de toute façon, Vitinha, à chaque fois qu'il touchait le ballon, on voyait les 32 millions d'euros sur son dos. Donc, et si on avait un minimum d'exigence, son niveau à l'Olympique de Marseille n'était pas suffisant. Donc, s'il peut retrouver toutes ses aptitudes dans un autre club, tant mieux pour lui, tant mieux pour tout le monde.
Et en tout cas, sachez que Rodri réussit ses débuts cartonnent avec le Genoa, ouais, parce qu'il a déjà marqué
0 but.
Un but.
Un but ?
Un but.
Ah, il a un but ?
Ouais.
En Serie A ?
Un but, alors je sais pas si c'est en Serie A ou en Coupe, mais en tout cas, il a un but.
En 6 matchs. Je l'avais pas.
Ah, c'est déjà bien, hein.
Sur le dernier match, ouais. Voilà. D'accord.
Je vous rappelle que les podcasts club sont toujours dispo là tout frais de cette semaine. N'hésitez pas, podcast Paris, After Lyon, After Marseille, si vous voulez encore un peu d'after d'ici quelques minutes. Après le podcast du C'était pas dans l'after à venir est exceptionnel aujourd'hui. En tout cas, je remercie.
Entre Monza, ouais, il a marqué.
Ouais. Walid et Lionel pour ce soir. Bonne soirée les gars.
Salut Thibaut. Merci. Salut Walid.
Salut à tous.
À Najib, à Adrien d'avoir été là. Et surtout merci à vous d'être là fidèle comme d'hab à l'after qui revient demain pour notre grande soirée équipe de France dès 20h, France-Allemagne à 21h. Notre grande soirée à vivre sur RMC. Ciao tout le monde, à demain.
RMC, l'after foot.